Bien-être ensemble, le magazine de la famille et de l'éducation présenté par Émilie Brigand. Experts, interviews, débats, reportages, témoignages, interactivité, c'est le rendez-vous avec vous-même à ne pas manquer sur Radio Médecine Douce.
Parfois ça s'impose, parfois ça questionne, parfois il en est hors de question, parfois ça se tente, et puis ça gonfle, et puis ça soulage. Parfois ça chauffe, ça tire, ça irrite, ça craque aussi, ça fait craquer, et puis ça nourrit, c'est bon, ça drogue, l'abandon. Mais comment est-ce qu'on peut dire ça? C'est un supplice, c'est moche, ça fait mal, ça sent mauvais. Est-ce que c'est vraiment une obligation? Et ça recommence et ça re-questionne jusqu'à quand? Et le bébé, il en pense quoi? Et le père qui regarde l'affaire se faire, c'est beau? Des pis de vache, dégueulasse, pourquoi avoir commencé? Quand arrêter? Comment continuer? Et après l'allaitement, que restera-t-il? Ce sera plus gros, plus plat, plus mou, et ces rivières dessinées sur le cou. Fontaine de lait, un titre du dernier album de Camille, oui, sorti en 2016. Il existe peu de chansons sur l'allaitement, j'en ai cherché. Et pourtant, quelle émotion l'allaitement, quelles émotions au pluriel. Elles en ont fait de l'allaitement leur champ de recherche et leur métier. Et elles vont aujourd'hui nous apporter toute leur expertise sur le sujet. Ce sont nos trois invités du jour. Véronique Darmanjac, consultante en lactation certifiée IBCLC. Elle a créé il y a bientôt un an le centre Allaitement Véronique Darmanjac. Pour un accompagnement complet des familles et des professionnels, elle est aussi l'auteur de L'allaitement malin aux éditions Le Duc et Allaiter et reprendre le travail aux éditions Chronique Sociale. Colline Marchand, ostéopathe spécialisée dans le domaine de la gynécologie, elle prend en charge les femmes enceintes, les nourrissons et les enfants. Elle travaille en cabinet à Paris dans le 18e, mais aussi dans le centre d'allaitement de Véronique Darmanjac. Nous découvrirons dans quelques instants comment l'ostéopathie peut soutenir l'allaitement. Et enfin, Patricia Coutable, avant elle était auxiliaire de puériculture dans une grande maternité réputée à Paris et aujourd'hui elle est indépendante et consultante en lactation et en allaitement aussi au centre de Véronique Darmanjac. Bonjour à tous les trois, à toutes les trois.
Bonjour.
Nous sommes entre femmes aujourd'hui. Chers auditeurs, comme nous sommes en direct, vous avez la possibilité d'interagir avec nos invités et de leur poser vos questions ou simplement de témoigner sur le sujet de l'allaitement. Vous pouvez nous envoyer vos messages par l'espace commentaire de votre site. Si vous avez par exemple pris la décision d'allaiter facilement ou non. Racontez-nous votre histoire, quelles ont été vos belles surprises et vos difficultés aussi. Est-ce que vous avez été bien accompagnée en maternité, à la maison ou même avant, en préparation? Et quand et comment l'aventure s'est-elle arrêtée? On attend vos questions, vos commentaires. Tout cela, c'est sur le site Radio Médecine Douce. Bienvenue à tous dans votre émission.
Bien-être ensemble.
Quelques chiffres. En France, 66% des femmes ont fait le choix d'allaiter. Ça date de 2013. On n'a pas encore les chiffres de 2017, mais un chiffre qui semblait à l'époque stable depuis 10 ans. Et a priori, les choses n'ont pas beaucoup bougé depuis. Ce sont des chiffres tirés du site santé.gouv. Dans ces 66%, il y avait à la fois l'allaitement exclusif et l'allaitement mixte. Véronique Darmanja, consultante en lactation et en allaitement. Est-ce qu'on vous consulte pendant la grossesse ou même avant de concevoir un enfant pour vous demander votre avis sur la question de l'allaitement? Est-ce que certaines femmes vous appellent pour que vous les aidiez à faire leur choix d'allaiter ou pas?
Alors oui, mais ce n'est pas le plus fréquent. Je vois régulièrement des femmes pendant la grossesse qui se posent des questions sur l'allaitement, mais en général, elles ont à peu près déjà décidé d'allaiter, mais ce n'est pas forcément toujours le cas. Et effectivement, il y a des femmes pour qui une consultation, ça leur fait du bien pour décider ce qui leur convient le mieux.
Ou confirmer leur choix.
Voilà,
c'est ça. Quels sont aujourd'hui les arguments en faveur de l'allaitement à l'heure où donner le biberon semble plus simple pour certaines femmes et plus adapté aussi à nos vies actives? Il y en a plein. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns qui vous semblent les plus importants à souligner?
Alors, moi, je ne parle pas d'arguments en faveur de l'allaitement, je suis désolée. aujourd'hui, en termes de recherche, on parle en général de l'allaitement comme étant la norme biologique de l'espèce. C'est l'espèce humaine est faite pour être allaitée. Après, on a tout à fait le choix de ne pas allaiter. Mais du coup, on parle de l'allaitement comme étant quelque chose de normal pour un bébé. Et on va comparer les bébés qui ne sont pas allaités aux bébés allaités. Et donc, on va plutôt parler des risques du non-allaitement.
Alors, quels sont les risques du non-allaitement?
Eh bien, on a statistiquement des bébés qui sont plutôt plus malades en termes de pathologie ORL, pathologie digestive. C'est vraiment les deux grands secteurs où on a un effet le plus probant. Mais après, on a aussi plus de risques de cancer infantile, des choses comme ça, qui touchent heureusement très peu de bébés. Attention, quand on parle de risque, c'est sur de la statistique. Vous avez des bébés allaités complètement qui sont tout le temps malades et des bébés qui ne sont pas allaités et qui sont jamais malades. Donc, on parle de statistiques.
Et vous, dans le quotidien que vous vivez avec les personnes que vous accompagnez, qu'est-ce que vous remarquez sur, en tous les cas, la santé des bébés allaités, puisque vous n'accompagnez pas de femmes au biberon?
Alors, ça m'arrive d'accompagner certaines femmes qui donnent le biberon.
D'accord.
Mais c'est effectivement, je vois beaucoup plus de bébés allaités. Ce qu'on peut observer, c'est plus la période où ils entrent à la crèche. Parce que là, on a quand même un certain nombre de parents qui disent que leur enfant qui est entré en crèche, en fait, il n'est pas malade parce qu'il continue à être allaité, et pour certains enfants, allaité à 100%. Et là, vraiment, on voit une différence parce que les bébés en crèche sont d'habitude beaucoup malades.
Donc, plus ils sont allaités longtemps, plus ils bénéficient en fait de quoi? Des anticorps de la mère?
Oui, alors pas que. Oui, ils bénéficient des anticorps de la mère, mais le lait maternel, c'est un système complet. Et en fait, ça joue aussi sur la flore intestinale. Le microbiote du bébé allaité n'est pas le même que celui d'un bébé qui n'est pas allaité. Et ça, c'est de la prévention. C'est-à-dire qu'on n'est même pas là dans l'état de lutter contre des microbes, mais c'est juste qu'on ne les laisse pas s'installer. Donc en fait, c'est par plusieurs mécanismes.
Ok. Petit point sur le lait de vache, puisque les laits infantiles, en dehors de quelques-uns, sont quand même généralement plutôt au lait de vache. En 1954, Pierre Mendès-France, président du Conseil, impose le lait de vache, le verre de lait, à l'école, à l'heure de la récré, pour lutter contre la dénutrition et l'alcoolisme, puisque l'alcool était autorisé à l'école, même avant 14 ans à cette époque. Alors, tout cela partait d'un bon sentiment. Et puis, comme bien souvent, des groupes d'industriels se sont emparés de l'occasion pour accroître les productions de lait de vache, surtout que la vache, c'est ce qui coûte le moins cher à élever. Et puis, les publicitaires en ont fait leur beurre. Je vous laisse écouter ça, ça va vous rappeler des souvenirs ou pas.
Mangeons du lait.
J'en ai mangé quand j'étais petit et c'est comme ça que j'ai grandi.
Mon énergie de tous les jours, je t'en remercie, petit yaourt.
Les produits laitiers sont mes amis pour la vie.
Mangeons du lait.
J'apprends mes leçons, je les sais par cœur, c'est toi que j'aime, mon ami beurre.
Toutes mes forces et mon courage, je te les dois, toi le fromage.
Mangeons du lait.
Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Produits laitiers sont nos amis pour la vie.
Alors désolée pour la qualité de cette archive, hein. C'est une pub de 1981, mais le slogan a été repris maintes et maintes fois. Véronique Darmanjat, consultante en lactation, les produits laitiers et la pub ont-ils fait du mal à l'allaitement ?
Je ne pense pas.
Vous ne pensez pas ? Je vois Patricia Coutable faire la moue. Patricia Coutable, vous êtes aussi consultante en lactation, ouais. Je vais vous passer la parole sur ce sujet peut-être.
Alors moi je pense qu'on est très influençable. Et qu'effectivement, on a bien voulu faire croire aux gens que c'était vraiment nos amis. Donc effectivement, on fait encore croire hein, d'ailleurs aux gens que tous les produits industriels liés au lait de vache sont nos amis, que ce soit pour l'adulte ou pour l'enfant. Donc moi, je pense que oui, ça a pu jouer sur la façon que les mères ont visionné leur allaitement.
Est-ce que cette surproduction du lait de vache, c'est un problème particulièrement français ? Parce que quand même, si on regarde les chiffres, les femmes allaitent plus au Portugal, en Espagne, en Suède, il y a moins là-bas de publicité pour le lait de vache et depuis moins longtemps. Est-ce que vous remarquez que voilà, l'allaitement en France est encore difficile, peut-être pour des raisons aussi de comparaison avec le lait de vache qui paraît toujours être un grand ami, Véronique Darmanjat ?
Alors, moi, je pense qu'on pâtit beaucoup plus des grands laboratoires qui produisent les préparations pour nourrissons, qui ont un marketing extrêmement agressif, et particulièrement en France, plus que dans d'autres pays européens. Et je pense que ça joue beaucoup. Après, on a aussi une culture française dans laquelle, dans les régions d'élevage de vaches, clairement, on nourrissait les bébés avec le lait des vaches. Mais ça, c'est historique. Ça date de beaucoup plus loin que les années 50 ou 80.
D'accord. Et alors, aujourd'hui, il y a des alternatives au lait de vache, hein, même en lait infantile. Est-ce que vous êtes à même, Véronique, Patricia, de donner des informations à ce qu'on dit patiente, les personnes qui viennent vous consulter ?
Patiente ou cliente, ou comme vous voulez, c'est pas grave.
À vos clientes sur les alternatives au lait de vache ?
Alors, moi, Véronique. Oui, clairement, il y a des gens pour qui donner une préparation pour nourrisson à base de lait de vache, c'est un problème pour deux raisons. Soit parce que le bébé est allergique au lait de vache, soit parce que pour les parents, c'est problématique de donner du lait de vache. Donc, il existe d'autres préparations pour nourrissons. En général, pour les enfants allergiques, on va utiliser deux types, soit les hydrolysats, qui sont en fait faites à partir de lait de vache, mais on a coupé les protéines et on a gardé que des acides aminés, soit des préparations à base de riz ou de soja, qui sont... Alors attention, on ne donne pas du lait de riz ou du lait de soja comme ça à un bébé, hein, surtout pas, mais on a des préparations pour nourrissons faites à base de riz ou de soja qui sont adaptées pour les enfants allergiques ou pour les parents qui ne souhaitent pas utiliser du lait de vache.
Et chèvre, brebis, tout ça ?
Alors, dans un cadre d'allergie, chèvre, brebis, ce n'est pas intéressant.
C'est comme le lait de vache.
C'est des protéines très proches. Et en fait, vous avez pas mal d'enfants qui sont allergiques à vache, brebis, chèvre et soja.
Et dans le cas où on choisirait le biberon pour des raisons de confort personnel, mais où on ne voudrait pas donner du lait de vache parce que, pas forcément pour des raisons d'allergie, qu'on voudrait choisir des alternatives, le lait de chèvre, le lait de brebis, le lait de jument, ils sont plus forts en goût, mais aussi, a priori, plus riches en vitamine A, en vitamine D, en phosphore, etc. Et même par rapport au lait végétaux, par exemple, mais on ne peut pas les donner tout petit,
On ne peut donner au tout petit que des préparations pour nourrissons. C'est-à-dire que si vous avez une préparation pour nourrissons qui est faite à base de lait de chèvre, il y en a, vous pouvez les donner à un nourrisson. Mais il faut que ce soit transformé, il faut que ce soit donc une préparation pour nourrisson. Et puis que ces laits soient plus riches en phosphore ou en minéraux, c'est pas un avantage du tout.
D'accord.
Ça surcharge les reins des bébés, et pour les bébés, il faut absolument enlever des minéraux. Tous les laits animaux sont trop riches en minéraux.
À qui est-ce qu'on s'adresse comme professionnel quand on veut donner le biberon, pas allaiter, mais pas forcément donner du lait infantile à base de lait de vache
On peut déjà demander l'avis du médecin qui suit le bébé, tout simplement.
D'accord.
Et puis, si le médecin n'a pas l'air d'accord, on peut demander l'avis aussi éventuellement d'un naturopathe.
Alors, je vais vous lire le mail. Alors, je dois dire que j'ai reçu beaucoup de mails, de messages sur Facebook, etc., concernant l'allaitement. Beaucoup de témoignages, beaucoup de questions. Je vais essayer d'en lire et d'en passer un maximum. Là, ça me paraît opportun de lire celui de Maïté, puisqu'on est sur cette thématique-là. Bonjour, votre sujet me tient vraiment à cœur. J'ai 69 ans. Mon fils est né en a 46. Il y a donc 46 ans, dans les vents contraires, j'ai décidé de respecter ma nature de mammifère et j'ai donné le sein à mon bébé. Je passe les avis et commentaires de tous, car tous en avaient un. Au premier mois de mon bébé, je fonce chez le pédiatre, un peu anxieuse. Mon bébé était beaucoup plus gros que la norme, alors qu'il ne pesait que 3,3 kg à la naissance. J'entre dans le cabinet, pose mon bébé sur mes genoux, sans maudire, et là, je croule sous une avalanche de compliments de mon pédiatre, une tirade sans fin que j'écoutais ébahie. J'ai osé dire « ça se voit autant que ça ?» Il me répond « vous n'imaginez pas à quel point » et il ajoute « car le lait de vache, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde, mais pour les veaux. » J'ai souvent utilisé cet argument pour convaincre les futures mamans de mon entourage. Voilà, et elle dit « je vous envoie ce témoignage, merci, merci à vous Maïté. » Voilà, est-ce que vous voulez réagir?
Moi, je trouve autour que c'est de la un beau table. Témoignage vu l'époque.
Patricia Coutable.
C'est très clair. C'est un très beau témoignage vu l'époque, puisque la plupart de nos mères, hein, puisque j'ai à peu près l'âge de ce monsieur.
De cette dame, Maïté.
Non, de ce monsieur.
Ah, du
fils.
du bébé qui a été allaité. Voilà, c'est ça.
La plupart de nos mères disaient plutôt l'inverse, c'est-à-dire que leur lait était soi-disant pas bon, pas assez riche, pas de la bonne couleur, pas qu'est-ce qu'on entendait encore et des choses qu'on entend toujours, parce qu'en fait, c'est des clichés. Hein.
Alors, pour aller dans le sens inverse et pour en revenir à la question de la publicité, il y a beaucoup aussi de publicité en faveur des laits infantiles et des produits laitiers, mais aussi en faveur de l'allaitement, comme la campagne de l'UNICEF de 2016 qui a fait polémique parce qu'il y avait un message qui disait « l'allaitement stimule la santé d'un enfant, son QI, ses performances scolaires et son... » revenu à l'âge adulte. Est-ce que vous comprenez que certaines femmes aient pu se sentir culpabilisées en entendant ça? Ça a été quand même divulgué un peu partout. Alors, à la fois, effectivement, c'est certainement juste, quoique le revenu à l'âge adulte...
C'est juste.
Alors, expliquez-nous ça.
En fait, il y a un biais quand même du fait que souvent, en France, par exemple, les femmes qui allaitent sont les femmes les plus éduquées et celles les plus hauts revenus. Donc, on a un petit biais de ce côté-là. Mais même dans d'autres pays où on n'a pas ce biais-là, on retrouve des revenus supérieurs pour les enfants qui ont été exclusivement allaités à partir d'un certain nombre de mois, je ne sais plus lequel. Donc, c'est juste. Et cette campagne, elle a fait polémique en France, mais elle n'a pas forcément fait polémique partout dans le monde. Il y a plein de pays où ça gêne personne qu'on dise ça. Mais en France, on a une culture qui n'est pas du tout une culture d'allaitement. On a une culture d'enfants au biberon. Et donc, effectivement, on a trouvé que c'était culpabilisant. Maintenant, la question, c'est, je pense que chaque mère et chaque famille, et donc chaque parent, doit pouvoir choisir l'alimentation de son enfant avec des informations justes.
Mais sans pour autant se dire que son enfant est un futur malade, raté, chômeur.
C'est des statistiques.
Oui, mais c'est des statistiques qui sont utilisées comme argument pour convaincre. Et peut-être que la culpabilité n'est pas un bon argument pour convaincre.
On ne cherche pas à culpabiliser les gens. En général, sur ces campagnes-là, on cherche plus à donner une information. Mais en France, c'est mal pris. Mais c'est mal pris sur l'allaitement. Vous le faites sur d'autres sujets, ça passe très bien. On ne va jamais faire une campagne en disant que les gens qui ne sont pas fumeurs sont en meilleure santé, vont être moins malades, vont avoir moins de cancer. Ça gêne personne qu'on dise que les fumeurs vont avoir plus de cancer.
Ça gêne certaines personnes quand même.
c'est globalement bien accepté qu'on fasse une campagne dans ce sens-là. Pour l'allaitement, ça gêne encore. Et je pense que ça changera.
Vous voulez réagir, Patricia Coutable?
Non, je suis tout à fait d'accord avec Véronique. C'est vrai qu'on a quand même... On a en plus tellement peu d'infos qu'effectivement, dès qu'il y en a une, elle semble être culpabilisante. alors qu'il n'y a pas de quoi culpabiliser, c'est des réalités.
Alors, pour justement déculpabiliser les femmes, parce qu'il le faut, les femmes qui voudraient faire ce choix de donner le biberon, et puis après on laissera tomber le biberon pour plus se plonger sur, véritablement sur le sujet de l'allaitement, mais est-ce qu'on peut dire qu'un biberon vaut mieux qu'un allaitement non consenti ou mal vécu ?
Mais de toute façon, un allaitement non consenti, il ne dure pas longtemps en général, il dure même très peu, parce que ça ne se passe pas bien et que les femmes arrêtent. Et puis surtout, moi il me semble que ça se passe bien quand tout le monde est bien, quand les parents sont bien avec leur choix, quand les enfants sont bien, et qu'après c'est à chaque famille de s'ajuster en fonction de ses propres paramètres. Et il y a des femmes qui ont... pour qui c'est extrêmement important de ne pas allaiter, et c'est tout à fait respectable. Et ça ne me pose strictement aucun problème.
Et ça ne veut pas forcément dire que son enfant va mal finir.
Non, puisque, encore
elle,
une
elle
fois...
elle est cohérente avec son choix.
Elle est cohérente avec son choix, ça ne veut pas dire qu'elle va mal s'en occuper, évidemment. Et en plus, un cas individuel, c'est un cas individuel. Ça n'est pas un reflet des cohortes des études. Et il y a des femmes pour qui c'est extrêmement important de ne pas allaiter.
Est-ce qu'il y a des mauvaises raisons pour allaiter, comme par exemple je vais allaiter parce que je veux maigrir, en plus qui peut être basé sur des préjugés sur des idées fausses? Véronique Darmanjat.
Il y a des idées fausses, et c'est justement là que je me bats. C'est que je trouve que c'est extrêmement dommageable de laisser les gens faire un choix sans leur donner les informations. Parce que parfois, ils font un choix sans savoir qu'ils vont avoir un effet contraire à ce qu'ils voulaient. Exemple type de maigrir. On sait qu'une femme qui allaite exclusivement et qui allaite plus de 6 mois a plus de chances de perdre des kilos qu'une femme qui n'allaite pas, par exemple.
Ce qui, par exemple, pour mon cas, n'était pas du tout le cas.
Après, ça
mais je
aussi.
N'ai pas allaité pour ça, Dieu merci. Mais voilà, ça dépend aussi de chaque femme.
Exactement.
En tous les cas, si ça avait été ma motivation, j'aurais été bien déçue.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'une femme qui, par exemple, souhaite ne pas allaiter parce qu'elle a peur d'abîmer ses seins, c'est très dommage, parce que le fait de ne pas allaiter, c'est là qu'on a le plus de risques d'abîmer ses seins, puisque de toute façon, on aura une montée de lait, de toute façon, ils vont gonfler à ce moment-là, et il n'y aura pas de bébé pour les vider, et que c'est là qu'on risque le plus d'avoir une peau qui se détend au niveau des seins, qui est étirée, et donc des seins qui vont devenir plus flasques. C'est dommage.
C'est dommage, effectivement. Mais c'est bien de le dire, on est là pour ça. Colline Marchand, vous êtes aussi à nos côtés, vous êtes ostéopathe. Si je n'ai pas d'hallucination visuelle là, vous êtes très enceinte.
Oui, de 9 mois.
De 9 mois. Approchez-vous de votre micro, mois, oui. S'il vous plaît. C'est pour maintenant ou pour tout de suite, quoi. Ce serait très drôle que ça arrive pendant l'émission. Enfin bon, on est en très bonne compagnie. Vous êtes donc au cœur de la question du choix de l'allaitement ou pas. Vous m'avez dit hors antenne que pour vous, c'était une évidence que vous alliez allaiter votre bébé. Est-ce que vous êtes senti parasité dans votre choix par la publicité ou tout simplement par l'avis de l'entourage, les amis, etc.?
Non, pas du tout.
Le micro.
Pas du tout, non. Par contre, je me suis bien documentée pour pouvoir le faire du mieux possible. Mais voilà, j'étais assez claire avec mon choix.
Et qu'est-ce qui vous a persuadé que c'était le bon choix? Qu'est-ce qui vous a motivé, peut-être? La question est mieux posée comme ça.
Après, c'est peut-être mes connaissances, mais c'est vrai que pour moi, c'est à la fois naturel. Pour moi, c'est aussi la meilleure alimentation pour l'enfant. C'est aussi une expérience à vivre. C'est un contact avec le bébé, c'est voilà.
Est-ce que vous avez demandé à votre conjoint, au futur papa, ou est-ce que ça vous semble être quand même une question vraiment de femme?
On en parle. Après, il me soutient il me soutient dans mon choix, donc voilà.
Ouais, vous êtes en accord. Ça n'a pas demandé beaucoup de discussions ou de tergiversations.
Mais après, c'est vrai que mes patientes, souvent, par rapport à leur conjoint, en fait, se disent, mais voilà, il va peut-être pas remplir suffisamment son rôle, ou il aimerait intervenir plus auprès du bébé.
Et dans ce cas-là, vous leur dites quoi ?
Qu'il y a d'autres moyens. Par exemple, c'est vrai que le bain, du pot à pot.
Ouais, voilà, ce sont des alternatives qui permettent aussi de donner une place au papa. On en parlera peut-être en deuxième partie d'émission. On parlera de l'allaitement une fois qu'il est là, une fois que l'enfant est né. Donc, en résumé, pas trop écouter la pub, pas trop écouter les autres et quand même se reconnecter à soi, à ce qui paraît évident à soi. J'imagine qu'il faut quand même écouter un peu la vie du papa. Mais voilà, quelle est votre position par rapport à ça, vous, les consultantes en lactation?
C'est parfois très inconfortable parce que quand on a le plus inconfortable, à mon sens, c'est quand on a une femme qui ne veut pas allaiter et le père veut.
Et oui, c'est possible allaite. Aussi dans ce sens-là.
Et ça, c'est extrêmement difficile parce qu'on ne peut pas forcer une femme à allaiter. C'est impensable. Et en même temps, le père veut le mieux pour son enfant, donc il voudrait qu'elle sa femme allaite.
Et il vous demande d'appuyer ses arguments, c'est ça ?
C'est très, très, très difficile. Et en général, j'essaye de faire exprimer aux deux parents qui est important pour eux, ce qu'ils ressentent. Le plus souvent, ils font un compromis. C'est-à-dire qu'il y a des mères qui disent « Bon, ok, je veux bien allaiter, mais ce sera un mois, pas plus, par exemple. »
Ou l'allaitement mixte, ça, c'est
non,
un argument qui
Non, parce que le problème
qui fonctionne.
De ces femmes-là, en général, c'est pas, c'est qu'elles ne veulent pas avoir un enfant au sein, en fait.
D'accord.
Déjà.
Donc, c'est qu'il ne faut pas que ça dure trop longtemps.
Voilà. Et ça, c'est très compliqué. Après, quand c'est dans l'autre sens, que c'est la mère qui souhaite allaiter et que le père ne veut pas, on trouve des arrangements. C'est beaucoup plus simple, en fait, parce que souvent, le père, ce qu'il veut, c'est pouvoir avoir un contact avec son enfant.
Ce qui est tout à fait possible.
C'est tout à fait possible. Et puis, s'il veut donner un biberon de temps en temps, c'est aussi possible. Mais en général, c'est une idée qu'ils ont pendant la grossesse. Une fois que le bébé est là, ça a changé.
Oui, c'est ça. Il faut attendre aussi, peut-être, que la chose devienne réelle. Et alors, une fois qu'on a pris la décision d'allaiter pendant la grossesse, est-ce qu'il y a une préparation nécessaire à l'allaitement avant? Alors Patricia Coutable.
Moi, je pense que oui. Je pense que, comme on l'a déjà dit, il y a tellement beaucoup trop d'infos ou pas assez ou de la désinformation autour de tout ça. Je pense qu'il est hyper important d'aller chercher de l'information. Alors, il y a des consultantes, il y a des blogs, il y a plein de possibilités d'aller chercher de l'info. Alors, les blogs, tout ça, il y en a des très, très bons. Celui de Véronique, par exemple. et puis, il y en a des moins bons. Bon, après, il faut faire le tri. Mais moi, je pense que la préparation à l'allaitement a autant de sens que la préparation à l'accouchement.
Donc là, vous parlez d'une préparation psychologique par les informations. Mais est-ce qu'il y a une préparation physique ?
Physique, non, pas forcément.
Des massages sur la poitrine, des crèmes, des choses à manger particulièrement ?
Pas de nécessité, mais par préparation psychologique, oui, sur le rythme du bébé, sur qu'est-ce que ça va faire. Comment, pourquoi, comment ça marche, hein, tout simplement, parce qu'on n'en parle pas. On devrait savoir des choses depuis notre petite enfance, puisque finalement, on est des mammifères, donc on aurait dû étudier la lactation à l'école. Et en fait, on nous fait découper des souris.
Et vous, vous militez pour qu'on parle de lactation à l'école, ce qui, effectivement, serait une fort bonne idée.
Je pense que ce serait déjà une bonne information auprès aussi bien des hommes que des femmes. Parce qu'en fait, c'est naturel, mais comme on ne sait pas vraiment à quoi ça sert et que l'image du sein est plutôt une image sexuée, qu'une image de nourrissage, forcément, on se retrouve avec est-ce que j'allaite ou pas, quoi.
Oui, et puis nous, humains qui sommes des mammifères à la base, on est aussi des êtres de raison et on a un peu perdu le contact avec certaines formes instinctives. Et voilà, certains métiers, la communication est là pour nous permettre de reprendre contact avec cet instinct. Colline Marchand, ostéopathe, donc, est-ce que vous, en termes d'ostéopathie, vous avez des conseils à donner avant l'accouchement à une maman qui voudrait allaiter son enfant?
De toute façon, c'est vrai que c'est bien pour une femme enceinte de consulter pendant sa grossesse. Comme ça, ça peut libérer certains blocages, même au niveau de la cage thoracique, qui peuvent peut-être bloquer la lactation aussi. Mais,
Donc, une petite séance chez l'ostéopathe pour vérifier la cage thoracique, se détendre, les bras, les épaules, le dos.
Oui, je trouve que... Mais de toute façon, l'ostéopathe le vérifie de lui-même lors de la consultation avant un accouchement. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant.
Merci beaucoup pour tous ces conseils. Je pense qu'on va aborder du coup la deuxième partie de cette émission. Une fois le bébé né, comment bien démarrer un allaitement? Sur quoi se battre et sur quoi lâcher? Qui sont vos alliés dans cette aventure? C'est ce que nous tenterons de comprendre dans une deuxième partie d'émission avec nos invités du jour, expertes en lactation et en allaitement, pour témoigner et vous et nous poser vos questions. Chers auditeurs, ça se passe dans l'espace commentaire de la radio ou sur mon compte Facebook public Émilie Brigand. vers le lien de cette émission. Et pour le moment, on reste dans le lait avec le choix musical de Colline Marchand. Je bois du lait, signé un groupe de rock français qui a connu son heure de gloire toute petite, mais son heure de gloire quand même dans les années 60, Les Pirates. Pourquoi ce choix, Colline?
C'était le côté rock.
C'était le côté rock'n'roll de cette chanson, parce que c'est vrai que parfois c'est un peu rock'n'roll, l'allaitement. On se retrouve dans 2 minutes dans Bien-être Ensemble.
Change pas mon humeur, la joie est dans mon cœur. Et si je peux prétendre conserver la forme que j'ai, c'est que je bois du lait. Oh, sache qu'un peu les copains qui ne comprennent pas, oh, ils boivent du whisky, de la bière, du coca. Évidemment, ça choque.
Bien-être ensemble.
Le dossier de l'allaitement est ouvert dans le magazine Bien-être ensemble. Et après nous être intéressés à ce qui se passe avant que le bébé naisse, nous nous intéressons maintenant au tout début de l'allaitement avec nos 3 invités, Véronique Darmanja, conseillère en lactation, Patricia Coutable, ancienne auxiliaire de puériculture, devenue aussi conseillère en... Non, consultante, pas conseillère. Oh là là, l'erreur. Consultante en lactation, et Colline Marchand, ostéopathe. Patricia Coutable ou peut-être Véronique Darmanja, qu'est-ce qui se passe physiologiquement les 3 premiers jours après la naissance du bébé dans le soutien-gorge de la maman?
Ça, c'est la question.
Eh ben oui. Non, mais déjà, partons sur les bases voilà, biologiques. Qu'est-ce qui se passe pour qui attendent un bébé qui ne savent pas vraiment ce qui va se produire?
Il y a une poussée hormonale qui fait qu'on va avoir une montée de lait, mais au bout de 48 voire 72 heures en fonction du bébé, puisque c'est la stimulation par la succion qui va faire que la montée de lait va arriver. En attendant, sur les 3 premiers jours, en général, de façon assez large, on va avoir 3 jours de colostrum. Alors, ça va qu'on n'a pas besoin de 3,5 tonnes de colostrum.
Qu'est-ce que c'est que ce mot, colostrum?
Colostrum. Donc, on peut le résumer en disant premier lait, en fait. Tout premier lait.
Qui n'a pas vraiment la couleur du lait.
Non, qui est jaune, qui n'est pas là en très grosse quantité, mais pour lequel ce n'est pas très important qu'il soit là en grosse quantité, puisque la qualité, elle, est là.
D'accord.
Et en plus, le bébé a un estomac qui n'est pas très grand. C'est-à-dire qu'il a un estomac de la taille d'une bille, donc on n'a pas forcément besoin d'avoir 10 litres de colostrum. Quelques cuillerées suffisent largement sur 24 heures.
Donc, pas d'inquiétude si dans les 3 premiers jours, ça ne coule
c'est
pas
ça.
À flot. C'est ça. Quelles difficultés les femmes rencontrent-elles fréquemment au tout début d'allaitement, ces 3 premiers jours qui se passent souvent à la maternité?
Alors souvent, première chose, ça peut être de la douleur. C'est-à-dire que le bébé n'a pas réussi à bien attraper, donc il pince un peu le mamelon, un peu voire beaucoup pour certains. Et du coup, ça amène de la douleur à la mère. parfois une pas assez bonne synchronisation entre bébé et la maman, c'est-à-dire que les trois premiers jours, la maman est un petit peu euphorique et pas très enclin à dormir parce que voilà, un peu émerveillée par son bébé. Et puis à J3, où elle voudrait bien se reposer, là c'est le bébé qui prend la relève et du coup qui passe des nuits un peu compliquées. Donc on n'est pas vraiment en symbiose au départ, et ça peut être compliqué. On ne parle même pas d'allaitement, c'est juste d'être en symbiose avec ce petit qui vient d'arriver et qui atterrit sur la planète Terre.
Et de se découvrir.
Et de se découvrir.
Parce qu'on ne se connaît pas bien avant.
Moi, je dis souvent aux mamans, c'est la naissance de parents et d'un enfant. On parle souvent de la naissance d'un bébé, mais rarement de la naissance des parents aussi, parce que finalement, ils sont nés en même temps que cet enfant et que leur enfant.
Alors, il y a des femmes qui se posent des questions sur des bouts de seins trop petits ou sur des montées de lait tardives ou sur le fait de déprimer, d'avoir un baby blues juste après et de pouvoir allaiter en même temps. Est-ce que vous pouvez les rassurer ou pas sur ces questions-là, en tous les cas, qui, quand elles se présentent au tout début de l'allaitement?
On essaie de les rassurer le plus possible.
Bouts de seins trop petits, il y a des bouts de seins en plastique.
Il y a des bouts de seins silicone qui existent, mais ce n'est pas le souci. C'est-à-dire que pourquoi on dit bouts de seins trop petits? Est-ce que le bébé est bien installé? Parce que c'est assez exceptionnel qu'on soit des mammifères et que du coup le mamelon ne soit pas adapté à la bouche de son propre enfant. Il y a un moment donné où ça pose question. Alors parfois ça arrive, effectivement, il y a un souci, il n'y arrive pas parce qu'il y a un frein de langue, parce qu'il y a des choses comme ça. Du coup, il n'arrive pas à aller au-delà de la prise en bouche. Mais c'est assez rare finalement. Et puis surtout, il y a des consultantes qui, après, dès la sortie, sont là pour ça.
Ouais, c'est ça. Quand est-ce qu'il faut s'inquiéter parce qu'un allaitement ne marche pas? Tout de suite. Un allaitement qui ne marche pas, on s'inquiète tout de suite. Non, mais il y a une période d'adaptation.
S'il y a de la douleur, s'il y a une incompréhension de la maman, si on ne sait pas trop ce qui se passe, si on a l'impression que le bébé ne prend pas assez ou autre, je pense qu'il ne faut pas hésiter à consulter. Parce que le rôle de la consultante ou du soignant qui est prêt à aider à l'allaitement va rassurer la maman et du coup générer une possibilité d'allaitement qui va être bien plus intéressante pour la maman.
Donc, consulter le plus tôt possible, mais ce qui se passe à la maternité, c'est que les gens ne sont pas toujours disponibles.
C'est ça.
Alors, vous qui avez travaillé à la maternité, ce n'est pas de leur faute, hein. Ils ne sont peut-être pas formés.
Alors, il y a ça, il y a un manque de formation de la part des soignants, mais ça, ça commence à évoluer, bien que ce soit encore difficile. Je pense aussi que ces soignants dépendants, en fonction du vécu de la personne qui rentre dans la chambre, hein, est-ce que ça l'intéresse l'allaitement ou est-ce que ça ne l'intéresse pas? Et puis, manque de temps, parce qu'il faut voir que quand on a 12 ou 13 patientes plus leur bébé en charge sur 12 heures, effectivement, on n'a pas le temps de passer une heure avec chaque patiente. C'est juste pas jouable.
C'est pour ça que vous avez eu envie de devenir consultante en lactation. En même temps, c'est une vraie passion, cette problématique. Oui, vous êtes tombée dans le lait quand vous étiez petite, c'est
même
ça?
Même pas. Mais dans la lactation, oui. Dans la lactation humaine, oui.
Parce qu'en tant qu'auxiliaire de puériculture, on s'occupe de plein de choses.
C'est le propre métier au départ. Enfin,
pas forcément que de l'allaitement.
Mais en même temps, moi, j'ai découvert en devenant consultante en lactation qu'en fait, on peut avoir exactement le même type de conseil en n'étant pas proche de l'allaitement, finalement. Parce que cette organisation maman-bébé, elle arrive allaitement ou pas allaitement, de départ. Donc, moi, ça m'a permis, dans mon métier d'auxiliaire, de voir les choses autrement. Et puis surtout, après coup, je me suis dit, mais comment aider ces femmes qui cherchent à allaiter et qui, finalement, à 3 semaines de vie, quasiment arrêtent?
Est-ce qu'il y a une différence entre un début d'allaitement qui se passe à la maternité et un début d'allaitement qui se passe à la maison ou en maison de naissance? Vous sentez quand même des femmes
déjà,
plus en difficulté?
Alors déjà, les maisons de naissance, en France, il n'y en a pas des tonnes.
Ouais, mais bon,
il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose parce que l'accompagnement de base n'est pas le même. On cocoonne plus les femmes en maison de naissance qu'en genre maternelle, où elles sortent de là, elles sont très, souvent très perdues. Hein.
Mais il y a aussi des auxiliaires de puériculture très calés en allaitement dans les maternités. Il ne faut pas faire de généralité, mais en fait, ça dépend d'elles,
c'est ce que je disais, c'est soignant dépendant.
Colline Marchand, vous vouliez intervenir.
Par rapport à la différence peut-être entre maison de naissance, accouchement à domicile et à la maternité, c'est aussi avec la péridurale qui peut-être rendre le bébé plus fatigué ou plus atone et donc peut-être prendre moins le sein ou avoir un réflexe de succion moins fort peut-être.
Vous allez, c'est peut-être indiscret de vous poser la question, mais accoucher en maternité, en maison de naissance chez vous?
En maternité, mais si c'est possible, le plus physiologiquement possible
Et peut-être sans péridurale.
Et peut-être sans péridurale.
Faut toujours dire peut-être.
Mais c'est un premier accouchement, donc on va voir comment aussi ça va se passer.
En Aquitaine, la maternité des émailleurs a créé des chambres familiales. C'est un concept unique en France à l'initiative d'une sage-femme. C'est une bonne piste pour faciliter l'allaitement ou au contraire, c'est pas forcément une bonne idée que la maman soit pas tranquille et au sein de sa famille les trois premiers jours. Faut plus de tranquillité.
Ah non, moi je pense qu'une chambre familiale, c'est génial.
C'est génial. C'est génial.
Ouais, ça permet que le père prenne sa place tout de suite, qu'il soit un vrai soutien. Et en plus, quand on voit les mamans qui dépriment toutes seules dans leur chambre de maternité, c'est évident que c'est une bonne idée.
C'est évident.
Et puis, elles ont besoin de soutien tout le temps. En fait, pourquoi c'est si compliqué en maternité ? C'est qu'elles sont seules. Elles sont seules la nuit, là où le bébé potentiellement a plus de demandes. Elles sont seules le matin parce que les soignants ne sont pas forcément présents et sont attelés à autre chose. Et puis l'après-midi, il y a la famille qui vient juste en visite, y compris le père. Donc effectivement, les pièces où elles peuvent être beaucoup plus accompagnées de leur mari, qui lui aussi est né en même temps que son bébé et que sa femme.
Le papa,
ouais,
oui. C'est ça.
Potentiellement, moi, je pense que c'est indispensable.
Alors, sur mon compte public Facebook Émilie Brigand, je vais vous raconter ce qui s'est passé. J'ai demandé comment apprendre à allaiter. J'ai posé une question un petit peu provocatrice. Et puis, j'ai soulevé des débats. D'un côté, Julie nous écrit à propos de l'allaitement. L'allaitement, ça s'apprend. Pas d'instinct, par pitié, éventuellement du mimétisme, mais c'est rare dans nos sociétés. Même une femelle chimpanzée en captivité ne sait pas s'occuper de ses petits. D'autres commentaires soutiennent cet avis, comme ceux de Mathilde, de Lénie et de Stan, oui, des hommes, qui parlent de l'importance du bon accompagnement, notamment pour la position à adopter, nous écrit Lénie. Et puis, pour le premier enfant, nous écrit Mathilde, qui, après avoir été aidée par une sage-femme qui lui a expliqué comment ne pas stresser, comment stimuler les tétés de son premier enfant, etc., et avoir une hygiène irréprochable, elle s'est parfaitement débrouillée pour les deux autres et elle a eu la sensation d'avoir retrouvé son instinct maternel, mais plutôt pour les deux suivants. Et d'un côté, il y a ces avis, et puis de l'autre, il y a ceux qui défendent coûte que coûte l'idée d'un instinct naturel et de quelque chose d'inné dès le départ, comme Céline, Isabelle et Livia, qui parlent de l'allaitement comme d'une rencontre et d'une évidence qui n'a pas forcément besoin d'aide. Il faut s'écouter, écouter l'amour. Alors, je vous pose la question à vous, l'allaitement, ça s'apprend ou pas ? Qui se lance ?
Ah, moi, je suis Véronique Darmanjat, en fait. Parce que à la fois, en fait, la lactation, elle va démarrer toute seule. Il n'y a pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. De toute façon, ça va démarrer. Par contre, mettre un bébé au sein, ça peut s'apprendre. Et c'est souvent très culturel. Et d'habitude, on apprend en regardant les autres femmes allaiter. Sauf qu'effectivement, dans notre pays, regarder les autres femmes allaiter, c'est un peu compliqué. La plupart du temps, on n'a jamais vu. Mais il y a aussi un instinct du bébé, c'est-à-dire que le bébé, si on le pose sur sa mère et qu'on le laisse tranquille, il va aller chercher le sein tout seul et il sait le faire. Mais encore faut-il qu'on le pose sur sa mère et qu'on lui laisse la possibilité de le faire, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc il y a un côté instinctif chez le bébé et chez la maman, ça s'apprend.
Ça, parce que ça s'est perdu, en fait.
Parce qu'on ne baigne pas dans une culture d'allaitement. En fait, si.
Et effectivement, on parlait du mimétisme, mais il y avait peut-être du mimétisme avant, mais à partir des années 60, 70, 80, quand, voilà, au moment de la libération sexuelle et sociale des femmes, elles se sont mises à plus donner le biberon. Du coup, les générations des trentenaires d'aujourd'hui, ce sont des anciens enfants qui n'ont pas beaucoup été allaitées. Et elles ne bénéficient pas de la transmission de leur propre mère.
Alors, ça date de beaucoup plus longtemps que ça, en fait. C'est un peu... Moi, je prends toujours l'exemple de la cuisine. Quand on a vu ses parents faire la cuisine, on sait faire cuire des pâtes, on n'a pas besoin de regarder le mode d'emploi. Mais quand une femme a baigné dans une culture où elle a toujours vu allaiter les femmes autour d'elle, elle n'a pas besoin de se poser la question de comment on met un bébé au sein. Elle sait le faire. Ça, c'est clair. Mais en France, on n'a jamais été dans une culture d'allaitement. Il faut remonter au haut Moyen-Âge pour retrouver une culture d'allaitement. Parce que dans toutes les couches de la société, on a essayé de déléguer l'allaitement à des nourrices. Et donc, il y avait énormément de femmes qui n'allaitaient pas leurs enfants. Et ce n'est pas nouveau. Et ça ne date pas des années 60. Ça date de bien plus longtemps que ça. Il faut vous dire que pendant la Révolution française, on a été obligés ils ont passé une loi pour obliger les femmes à allaiter et que ça n'a jamais été appliqué. Donc, on est en France absolument pas dans une culture d'allaitement et on ne l'a jamais été.
Donc, il faut réapprendre, d'où l'importance de vos professions, consultante en lactation et en allaitement. Vous êtes partisane des groupes de femmes pour se soutenir dans l'allaitement et s'appuyer justement pas que sur la théorie, mais sur le mimétisme. Qui veut répondre ? Patricia.
Alors, moi, je vais répondre. Patricia, on sourit avec Véronique parce que je pense qu'on a un peu la même idée. Je pense que oui, c'est hyper important de pouvoir se soutenir entre femmes allaitantes ou pas, entre jeunes mères. Et d'ailleurs, ça se fait assez naturellement, finalement. Les femmes, elles essaient toutes. Hein. On a toutes des comptes Facebook, on a toutes les copines qui ont accouché il n'y a pas longtemps. Et qu'elles allaient ou pas, elles cherchent à comparer leur bébé.
Les comparaisons, demander trop d'avis, parfois,
oui,
c'est pas toujours bon.
C'est un mode de soutien.
Et en même temps, c'est un mode de soutien. Le mimétisme, moi, c'est vrai que c'est un mot qui me marque quand je vous entends et quand je lis les commentaires sur Facebook ou dans les mails qu'on m'a envoyés. Et je me dis que dans ces regroupements de femmes, cette espèce de culture de l'exemple et du mimétisme se retrouve, puisqu'on ne l'a pas manière transgénérationnelle.
Sur le mimétisme, on a un autre problème en France, c'est que quand vous regardez toutes les photos d'allaitement sur les affiches, dans les livres, sur Internet, vous n'avez que des bébés qui tètent mal, qui prennent mal le sein. Et donc, les femmes pensent que c'est comme ça qu'un bébé prend le sein. Alors, quand on leur montre comment un bébé prend le sein correctement, en ouvrant grand la bouche, en étant vraiment enfoui dans le sein, elles sont surprises. Ce n'est pas ce qu'elles ont vu. Donc, on a toujours un problème à l'inverse d'un mimétisme qui est mauvais parce qu'on a des mauvaises images.
Est-ce que l'une d'entre vous a vu le film « Un heureux événement » ?
Oui.
Alors, dans ce film, Un heureux événement, à un moment donné, il y a une scène où cette maman qui est complètement débordée après la naissance de sa petite fille se retrouve dans un club de l'allaitement et ce film fait un peu la critique, se moque un peu de ces clubs d'allaitement qui peuvent paraître un peu sectaires. Et le film, qui est très bon d'ailleurs, a été beaucoup critiqué, notamment par la Leche League, qui était en fait citée par l'auteur de Eliot Abécassis, qui a écrit le roman dont est tiré le film, Un heureux événement. Et la Leche League s'est défendue en disant on ne peut pas se moquer des clubs d'allaitement, etc. On ne peut pas se moquer de nous. Ils se sont sentis agressés. Alors, moi, je voulais, ne serait-ce que pour les citer et aussi pour les rassurer par rapport à ça, lire un mail que j'ai reçu d'une maman, Adeline. J'ai allaité mes deux filles, la première 6 mois, la deuxième 1 an. L'allaitement est une des plus belles expériences de ma vie, un lien fort avec l'enfant, une routine tendre et sensuelle. Et c'est tellement pratique. On a pu voyager en Asie avec un bébé de 6 mois sans rien prendre ou presque. Je ne remercierai jamais assez la Leche League pour les réunions mensuelles lors desquelles j'ai tout appris. Alors que le pédiatre voulait que je donne un médicament contre les coliques à mon bébé, les bénévoles de la Leche League m'ont montré comment positionner la tête du bébé pour qu'il n'avale plus d'air et n'ait plus de coliques, tout en douceur. Voilà, je voulais le lire pour ne serait-ce que les citer et puis voilà, leur dire qu'il y a aussi des mamans qui s'y retrouvent vraiment dans ces groupes d'allaitement et de parole. Et puis pour compléter l'idée d'un regroupement de femmes allaitantes et de parler de ce qui se passe aussi en dehors de la capitale, je voulais vous transmettre rapidement un lien qui m'a été envoyé par un auditeur de la Drôme. Donc j'en profite encore pour remercier tous nos auditeurs qui nous ont écrit concernant cette émission pour l'allaitement. Donc pour en revenir à ce réseau, c'est le PRALL, P-R-A-L-L, vous le connaissez ?
Oui, tout
ouais.
à fait.
Et donc c'est-à-dire le programme Relais Allaitement qui soutient l'allaitement et la parentalité avec des bénévoles qui s'adressent principalement aux familles vulnérables dans les quartiers urbains, en milieu rural et dans les services de néonatalogie. Ils font de l'information, de la prévention, du partage d'expériences. En fait, ce sont des acteurs locaux qui sont des bénévoles et voilà, Bastien nous a transmis l'info et j'ai promis de la transmettre également.
Le PRALL, hein, il faut quand même que je vous explique un tout petit peu. Ça a été créé par la Leche League justement, qui s'est rendu compte qu'elle ne touchait qu'une partie de la population et qu'il y avait toute une frange de la population qu'elle ne touchait pas. Et en fait, ils ont décidé de créer ce réseau pour former les mères des populations qui ne touchaient pas par leur réunion pour qu'elles-mêmes puissent aider les mères qui les entouraient. Voilà.
D'accord. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de faire le lien. Moi, je savais pas quel était le lien. Et vous êtes tout à fait OK avec ce genre d'initiative.
Ah, mais c'est génial. C'est comme ça que ça marche, en fait. Et en plus, les femmes qui sont formées pour les réseaux, parce qu'il y a le Pral, mais il y en a d'autres, des réseaux comme ça, les femmes qui sont formées par ces réseaux sont en général extrêmement fières, ça leur redonne une place dans la société qu'elles n'avaient pas toujours, et ça leur donne du pouvoir sur leur propre vie, et ça permet un échange entre les mères qui est extrêmement riche.
Alors, si ça vous intéresse de devenir un acteur ou un bénévole local pour le Pral, il suffit d'aller sur le site programme relais allaitement. Sur Facebook, pour en revenir à l'allaitement dans le côté pratique, Céline nous parle de la tétine comme d'un ennemi à l'allaitement au sein. Qu'en pensez-vous, mesdames ?
Bah, ça dépend.
Véronique Darmanjac.
Ça dépend. Alors, chez un tout petit, oui, c'est un ennemi dans le sens où un tout petit nourrisson peut très bien prendre sa tétine et oublier qu'il a faim parce qu'il satisfait son besoin de succion et qu'il oublie que, bah oui, il faut aussi manger. Donc, avec un tout petit, oui, on évite la tétine.
Pour vraiment. Les tout petits
Moins d'un mois, on évite.
Au moins.
Après, ça dépend. Vous avez des enfants qui têtent extrêmement bien, qui n'ont aucun problème de succion et qui passent sans problème de la tétine au sein et du sein à la tétine. Par contre, quand vous avez un bébé qui tète déjà pas super bien, quand on lui met une tétine, on risque d'augmenter le problème et d'avoir un bébé qui tète encore moins bien au sein. Donc, avant de mettre une tétine, on s'adresse à quelqu'un de compétent pour vérifier que le bébé il tète bien au sein et qu'il est efficace.
D'accord. Nous venons de recevoir un message sur le chat de l'émission de la part d'Anna. Je vous le lis. Bonjour, je vous remercie pour cette belle émission que j'écoute avec attention parce que pour moi, l'allaitement était difficile. J'avais une grande envie de partager ça avec mon bébé, surtout que je n'ai eu qu'un enfant. Quand je suis sortie de la maternité, le poids de mon fils stagnait, donc on m'a laissé sortir et j'avais beaucoup de lait. Et puis les semaines qui ont suivi, il maigrissait, il a perdu presque un kilo. Le premier mois, j'ai contacté une association qui m'a dit de changer de position, de lui donner plus souvent le sein, de le stimuler par des massages. J'ai tout essayé, je ne faisais que ça. Et puis le médecin, à la visite du premier mois, l'a passé au biberon, sinon il allait être hospitalisé et ça a changé ma vie et la sienne. J'ai eu très peur. On m'avait pourtant dit que le lait de la mère était toujours bon. Je n'en suis pas sûre, je ne sais toujours pas comment expliquer cela. On ne peut plus changer les choses maintenant, mais je voulais témoigner et avoir votre avis. Merci. Anna, alors est-ce qu'un lait peut ne pas être bon finalement ? C'est alors une non. question le importante.
Le lait ne peut pas ne pas être assez nourrissant. Par contre, je suis très triste pour cette maman parce qu'elle a été extrêmement mal accompagnée. Et c'est attendre un mois avec un bébé qui perd du poids, c'est très grave en fait parce qu'on aurait certainement pu récupérer les choses en s'y prenant beaucoup plus tôt. Et effectivement, en un mois, la lactation elle a mal démarré. Le bébé il s'est certainement pas bien tété. Et c'est beaucoup plus compliqué de rattraper les choses. Et c'est en fait très triste parce que c'est des choses qu'on voit souvent parce qu'on manque d'un accompagnement qui soit à la fois tôt et compétent, finalement. Mmh.
Donc, manque d'accompagnement. Après, c'est peut-être difficile de chercher dans tous les sens un accompagnement quand on est soi-même fatigué, qu'on se sent fragile, que c'est son premier enfant.
Ah, mais c'est pas la faute de cette maman.
Pour la déculpabiliser, je pense que c'est important de le dire.
C'est pas du tout de sa faute. Et c'est pour ça que je dis que je suis très triste pour elle. C'est parce que les gens qui l'ont accompagnée à la maternité, qui l'ont laissée sortir de la maternité avec un bébé qui n'était pas efficace au sein, c'est
peut-être
grave.
Ne l'ont-ils pas vu ?
Ils ne l'ont certainement pas vu, mais c'est un problème qu'on a en France aujourd'hui et j'aimerais bien que ça bouge un peu plus vite en termes de formation justement de tous ces professionnels qui voient cette maman.
Vous proposez de la formation aux professionnels, Véronique Darmanjac, oui. dans votre centre allaitement, oui. dont on redonnera les coordonnées en fin d'émission. Patricia Coutable, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Il y a le fait que les soignants ne soient pas formés, ça c'est un fait. Mais il y a aussi le fait qu'on ne donne rien comme information autour des associations justement à la maman en lui disant qu'il y a des choses qui existent pour l'aider. C'est-à-dire que potentiellement avoir un petit flyer avec 2-3 adresses, même...
Ne serait-ce que la PMI.
Ne serait-ce que la PMI, des gens qui puissent soutenir les mamans. Alors la PMI, on a le même un peu le problème que la mater, hein, c'est-à-dire que toutes les femmes, enfin toutes les personnes de PMI ne sont pas forcément
Est-ce qu'on peut rappeler
formées.
Ce que c'est qu'une PMI ?
C'est la protection maternelle et infantile. Donc
en fait, ce sont des accès gratuits.
C'est ça, ce sont des accès gratuits où il y a des consultations de puéricultrices, de pédiatres et autres. Et c'est vrai que dans l'absolu, la problématique, c'est pourquoi cet enfant et cette mère n'ont pas pu avoir accès à de l'information autour de ça. Moi, c'est ça qui me pose question. Et comme dit Véronique, c'est triste.
Vous déplacez dans les maternités pour proposer vos formations, pour dire qu'il faut donner plus d'informations. Ça fait partie de votre travail de consultante en lactation ou pas ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'il faut à la fois dire que c'est important de former le personnel, mais il ne faut pas non plus s'aliéner les professionnels de santé. En général, s'ils ne sont pas formés, ce n'est pas de leur faute, c'est parce que dans les formations initiales, on a un gros problème en France. Les médecins n'ont rien sur l'allaitement. Les sages-femmes, ça dépend de l'école de sages-femmes qu'ils ont faite. Les auxiliaires de puériculture, en général, elles apprennent sur le tas. Et donc, on ne peut pas aller dire aux gens, vous n'êtes pas compétents, il faut qu'on vous forme. Ce serait agressif pour eux et ce serait contre-productif.
Donc, c'est plutôt à la base, c'est-à-dire dans les écoles de médecine et de sages-femmes, et
il y a un gros
etc.,
travail
qu'il faut démarcher.
Et puis ensuite... En fait, le meilleur moyen, c'est d'avoir les mères qui disent à la maternité, on n'est pas contente parce qu'on n'a pas été accompagnée comme il faut. Et là, en général, on a des maternités qui demandent des formations. Donc, c'est bien de faire de la formation, mais c'est pas, on ne peut pas aller de manière... on ne peut pas aller démarcher.
Pousser des portes. Ouais. Voilà. Colline Marchand, vous êtes ostéopathe. Est-ce que vous pensez que l'ostéopathie aurait pu aider une consultation, par exemple, en ostéopathie, aurait pu aider Anna à trouver des explications à un enfant comme ça qui perd du poids le premier mois et on ne sait pas vraiment pourquoi, alors qu'a priori, on lui a donné des indications sur comment positionner son bébé au sein, etc. Mais tout ça ne suffisait pas. À quel moment intervient l'ostéopathie dans ce genre de difficultés et comment ?
Alors, soit si c'est la patiente qui a fait elle-même déjà la démarche, ou alors si elle a vu déjà une consultante à lactation qui a elle-même décelé un problème soit de succion avec la langue qui déglutit pas très bien, pardon, ou un problème d'ouverture de mâchoire, ou...
Donc, vous agissez là-dessus, sur des problèmes de déglutition, de mâchoire. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre ?
Il peut y avoir aussi des... la tête qui est bloquée en torticolis. Et donc, forcément, la déglutition se fait beaucoup moins bien. Il y a la base du crâne, si vous voulez, qui peut être aussi bloquée de par l'accouchement et donc bloquée, contractée, le passage de certains nerfs crâniens qui sont responsables de la succion.
Pour rassurer les parents qui n'ont pas encore testé l'aventure de l'ostéopathie avec des tout-petits, ça ne fait pas mal, ça n'est pas intrusif, ça ne risque rien.
Oui, généralement, oui.
Généralement, ça fait pas mal. Bon, de temps en temps, on en perd un ou deux.
Ça dépend bien sûr de l'approche du thérapeute, mais généralement, c'est quand même quand on touche un nourrisson, on est tous plutôt...
Même pour débloquer une mâchoire et
oui,
tout ça.
Oui, exactement. Ça se fait de manière quand même très douce. Faut juste quand même, je pense, être expérimenté un peu dans le domaine, voir quand même beaucoup de nourrissons pour... aussi se faire sa propre expérience.
Donc, c'est vraiment une formation particulière, l'ostéopathie spécialisée dans les nourrissons.
Il y a beaucoup...
Tous les ostéopathes ne sont pas
en
possibilité de faire ça.
Je pense que ça dépend beaucoup de la patientèle qu'on a. Et c'est vrai que moi, depuis que je vois Véronique et que j'ai assisté à la fois à ces formations et à la fois que j'ai vu des bébés au centre d'allaitement, le fait de voir sur une matinée ou un peu plus 4-5 bébés avec ce genre de problème, forcément, on est plus expérimenté, je pense, que quelqu'un qui voit un bébé une fois par mois.
Vous ne suivez pas une formation particulière pour les nourrissons
En
ostéopathie
Moi, après, de mon côté, je me suis formée. Mais disons que je pense qu'un ostéopathe lambda peut aussi faire un très bon travail sur un nourrisson.
Encore, faut-il qu'il le veuille et qu'il se sente à l'aise avec ça.
Exactement.
Véronique Darmandja, vous orientez beaucoup les nourrissons comme ça qui ont des problèmes de succion vers l'ostéopathie, mais aussi peut-être vers d'autres alliés à l'allaitement. Quels sont-ils ?
Alors en fait, faut bien comprendre que moi j'ai un biais dans ce que je vois. Je vois que les mamans et les bébés qui ont des problèmes d'allaitement. Donc les mamans pour qui l'allaitement se passe bien, je les vois pas. Hein, donc, il faut bien comprendre ça déjà.
Elles ne viennent pas trop vous voir discuter, en fait.
Elles viennent pour le sevrer ou pour la reprise du travail. Mais
ça, on en parlera en troisième partie d'émission.
Voilà, elles ne viennent pas au début quand ça se passe bien. Donc, moi, les bébés que je vois, il y a un problème. Et dans les problèmes très courants, il y a des bébés qui ont des difficultés à ouvrir correctement la bouche.
Et vous le voyez tout de suite.
Ah oui.
Ouais.
Ah bah oui, ça c'est évident. Il y a des bébés qui ont un problème de mouvement de langue. Ces bébés-là, oui, on travaille avec... Justement, c'est bien pour ça que je travaille au centre avec des ostéopathes, c'est parce qu'on en a vraiment besoin. C'est extrêmement complémentaire.
Ostéopathe, en fait. ORL aussi.
Alors, il y a aussi un ORL qui travaille au centre allaitement pour tous les problèmes de freins de langue. Des bébés qui ont des freins de langue peu élastiques ou trop avancés ou trop raides. C'est un vieux problème, le problème des freins de langue. Hein. C'est pas du tout un problème récent. Avant, les sages-femmes, enfin avant, il y a longtemps, hein, les sages-femmes gardaient un ongle long et quand elles voyaient un frein de langue trop serré, elles mettaient un coup d'ongle pour le couper. Donc, pour vous dire que c'est un vieux truc, hein, c'est pas nouveau. Aujourd'hui, on fait les choses plus proprement.
Et plus doucement, peut-être.
Non, c'est le même principe, c'est de couper un frein de langue qui est une opération simple pour un ORL. Et donc, au centre allaitement, il y a un ORL qui vient toutes les semaines pour tous les bébés qui ont un souci de frein de langue.
D'accord. Et est-ce que parfois, ce sera ma dernière question avant une deuxième pause musicale, est-ce que parfois vous renoncez ? Est-ce que vous avez déjà vu des bébés qui, ben non, ils n'y arrivent pas, la maman n'y arrive pas, et pour peut-être des raisons physiologiques ou psychologiques, et là vous dites, bon écoutez, oui.
C'est extrêmement rare.
Le biberon, ok.
Alors, on peut introduire un biberon pour plein de raisons, en fait. Ne serait-ce que parce que certaines mamans y tiennent. Mais des cas où on renonce vraiment, on se dit non, mais là on n'y arrivera pas.
Parce que ça n'est pas possible.
C'est extrêmement rare. Ça peut arriver, mais franchement, c'est pas notre quotidien.
Et c'est dans quel cas, si vous pouvez nous donner quelques indications ?
Alors, ça peut être un bébé qui a... Il y a des bébés qui ont certains syndromes qui font que, par exemple, ils ont le menton très, très, très en arrière avec une hypotonie de la langue et qu'ils ne s'en sortent pas, en fait, tout simplement. Ils n'arrivent pas à être suffisamment efficaces pour obtenir du lait et pour maintenir la lactation. Donc, oui, ça peut arriver. Mais encore que là, en général, on va se débrouiller pour maintenir la lactation, pour stimuler la succion du bébé, pour qu'au bout d'un certain nombre de semaines ou de mois, il y arrive. Donc, c'est vraiment un bébé où on se dit, on laisse tomber.
C'est très rare.
J'ai pas de souvenir, en fait, d'avoir laissé tomber.
Et en dehors de la maternité et du cocon de la maison, comment l'allaitement se passe-t-il ? C'est ce que nous verrons dans une troisième partie d'émission où nous parlerons également de la reprise du travail et de la fin de l'allaitement. Comment avez-vous fait, chères auditrices, pour ménager la chèvre et le lait et le petit chou ? Nous attendons vos réactions en direct dans l'espace commentaire de la radio. Merci beaucoup à Anna pour son précieux témoignage. J'espère qu'on a pu lui donner quelques explications pour la rassurer. Et encore une fois, d'où l'importance de l'information et puis des émissions comme celle-ci. Véronique Darmanja, je vais vous laisser présenter le morceau que vous avez choisi pour cette deuxième pause musicale.
Il s'appelle Petit pot de colle et c'est une chanson sur l'allaitement. En fait, c'est une berceuse et le titre m'amuse beaucoup parce qu'en fait, il y a beaucoup de parents qui sont très surpris que leur bébé ait besoin d'être dans les bras. Mais un bébé, ça a besoin d'être dans les bras et effectivement, c'est souvent un petit pot de colle.
On se retrouve dans 2 minutes après ce petit moment de douceur.
Petit pot de colle, viens coller ta peau, douce comme un pétale de coquelicot. Viens scotcher tes lèvres tout contre mon cœur, étancher ta fièvre, laver mon odeur. Ta main ne cesse de voltiger, funambule refusant de tomber dans le sommeil. Tes cheveux tout légers, légers, petite tête ébouriffée, parfum de miel. Je te serre un peu plus fort, mon si joli trésor. Petit pot de colle, viens coller ta peau, douce comme un pétale de coquelicot. Viens scotcher tes lèvres tout contre mon cœur, étancher ta fièvre, laver mon odeur. Moi j'essaie de t'imaginer le jour où tu sauras m'appeler maman. Ton regard comme étonné dans le mien s'est attardé juste un instant avant de replonger dans la tiédeur sucrée. Petit pot de colle, viens coller ta peau, douce comme un pétale de coquelicot. Viens scotcher tes lèvres tout contre mon cœur, étancher ta fièvre, laver mon odeur. Petit pot de colle, viens coller ta peau, douce comme un pétale de coquelicot. Viens scotcher tes lèvres tout contre mon cœur, étancher ta fièvre, la paix mon odeur. Petite peau de colle, mon coquelicot. Je t'étends la peau.
Bien-être ensemble.
Nous sommes toujours en compagnie de nos trois spécialistes en allaitement, Véronique Darmanjat, Patricia Coutable et Colline Marchand. Après quelques jours à la maternité, il faut continuer l'allaitement à la maison et dehors. Et après quelques semaines, reprendre le travail, l'allaitement, ça fait donc sans cesse face à des adaptations et voilà, surtout s'il veut durer. Alors quelques chiffres selon le site toujoursante.gouv, en 2013, on passait de 66% de bébés allaités à la naissance à 35% après un mois et alors à 18% après 6 mois, ce qui montre voilà, que beaucoup de femmes peut-être n'ont plus envie ou se découragent après le premier mois. Quels sont les facteurs qui expliquent cette baisse de l'allaitement très rapide, Véronique Darmanjat?
Un premier facteur évident, c'est que quand vous avez une femme qui a mal, quand le bébé tète, elle ne va pas l'allaiter longtemps parce que
c'est des
douleurs qui sont insupportables. Enfin, les douleurs au mamelon, c'est terrible. Et je répète que c'est absolument pas normal d'avoir mal quand on allait.
Oui, c'est ça, parce qu'il y a aussi des femmes qui n'ont pas mal, ou en tous les cas, c'est une douleur qui est vite soulagée par la succion.
On ne devrait jamais avoir mal.
Ok.
Mais quand on n'a pas eu l'aide correcte pour résoudre le problème de douleur, il y a des femmes qui arrêtent parce qu'elles ont mal, tout simplement.
Donc, la douleur, qu'est-ce qui peut expliquer aussi est-ce que vous avez des idées, vous aussi, autour de la table, la reprise du travail? Alors, c'est rarement le premier mois, mais ça explique certainement les baisses à 2 et 3 mois, après 2 et 3 mois d'allaitement.
Il y a aussi le bébé qui ne prend pas assez de poids. Et le pédiatre dit, ah ben non, maintenant, il faut donner des biberons.
Oui, comme disait Anna.
Et voilà. Alors, le cas d'Anna, il est quand même... je comprends le pédiatre qui a dit qu'il faut donner des biberons, hein, parce que j'en aurais dit autant, je pense.
Perdre un kilo en un mois, c'est quand même pas normal. Qu'est-ce qui reste dans la mesure de la normalité en termes de poids?
En termes de poids, normalement, un bébé allaité prend au minimum du minimum 30 grammes par jour les 3 premiers mois.
D'accord.
Si on a un bébé qui a pris que 20 grammes par jour, on récupère la situation, on s'en sort. Il faut revoir les choses, mais on s'en sort. Si vous avez un bébé qui perd du poids, ça dépend quand est-ce qu'on prend le problème. Si on le prend comme le pédiatre d'Anna à un mois, en général, on a du mal à récupérer les choses. Mais si on prend le bébé qui a une semaine et qui a perdu du poids depuis la sortie de la maternité, on récupère. On récupère la situation.
Oui, mais c'est vrai qu'à un mois, après, c'est l'hospitalisation ou le biberon, quoi. Donc,
et encore, il faut qu'il soit en état de prendre le biberon.
Oui. C'est ça. Voilà, a priori, ça a marché. Rentrer à la maison, c'est ce que beaucoup de femmes attendent avec impatience. Et puis, parfois, face aux impératifs du quotidien, l'allaitement pose problème. Et parfois, à l'entourage, les frères, les sœurs qui manifestent de la jalousie, le père, parfois. Alors, comment donner une place à chacun quand l'allaitement prend beaucoup de place et de temps? Est-ce que c'est une question qu'on vous pose souvent en consultation en allaitement? Véronique Darmanjat, Patricia Coutable.
Un bébé, ça prend du temps, de toute façon. Allaitement ou pas allaitement, un bébé, ça a besoin d'être dans les bras, ça a besoin d'être porté, ça a besoin qu'on s'occupe de lui beaucoup.
Mais peut-être plus quand on allaite, parce que l'allaitement dure plus longtemps que de donner un biberon.
Alors, en théorie, un biberon bien donné, ça prend quand même 15-20 minutes. Donc, l'allaitement ne prend pas forcément plus de temps. Et puis après, ça dépend de l'âge des frères et sœurs. Quand ils sont tout petits, bizarrement, quand vous avez un aîné qui a 18 mois, en général, ça se passe mieux que quand vous avez un enfant qui a 3-4 ans. Et 3-4 ans, en général, ils ne sont pas très, très contents. Hein. Et je dis souvent, maman, ils vont, en général, pendant la tétée, ils vont vous faire toutes les bêtises possibles et imaginables. Donc, il va falloir trouver le truc qui rend les tétées passionnantes. Donc, souvent, je leur dis, vous prenez une caisse dans laquelle il y a des jouets qu'il adore et qu'on ne sort que pendant les tétés, ou des choses comme ça pour rendre vraiment les tétés intéressantes pour les grands.
Alors, il y a une question qui nous est également arrivée de Maïté sur le co-allaitement. Le co-allaitement, ça peut être une possibilité aussi quand vous avez des enfants rapprochés. Je vous lis son mail. J'ai co-allaité mes deux aînés pendant 2 ans. Mes deux grands ont 1 an d'écart et j'ai donc pu comme ça leur faire bénéficier de 3 ans d'allaitement, le second ayant eu 1 an d'allaitement après l'arrêt de l'aîné. Bon, là, il y a pas mal de mathématiques. Je co-allaite actuellement les deux plus petits, 2 ans et demi et 1 an. Je suis relativement fatiguée par mon rôle de maman de 4 enfants, encore jeune, mais je ne peux pas trop me plaindre car tout mon entourage, famille et médical me dit que c'est l'allaitement qui me fatigue. J'en viens parfois à imaginer que ça peut être vrai. Si tout le monde le dit, il y a des aliments qui pourraient m'apporter un peu d'énergie et me soutenir dans la continuité de l'allaitement. Alors là, il y a 2 choses. Il y a la question du co-allaitement. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas trop fatigant? Et puis des aliments qui pourraient aider. Patricia Coutable.
Alors, je vais me permettre de réagir. C'est-à-dire que le co-allaitement, bah, c'est plutôt vachement bien pour tous ces enfants. Hein, parce que si j'ai tout compris, il y en a beaucoup qui ont été allaités quasi en même temps. Donc, c'est une bonne chose. Par rapport à la fatigue de la maman, je suis désolée de dire que bah, c'est que des enfants en bas âge et que c'est ça qui fatigue la maman et pas forcément l'allaitement. Effectivement, 4 enfants à la maison, bah, oui, ça doit faire beaucoup de bruit et ça ne doit pas être toujours évident en termes d'organisation. Mais je pense pas que ce soit, enfin j'en suis même sûre, ce n'est pas l'allaitement qui est la cause de la fatigue de cette maman.
Le co-allaitement, c'est une chose que, donc pour laquelle vous êtes favorable toutes les deux en tant que...
À condition que ce soit le souhait de la maman,
c'est
oui.
C'est ça, si c'est le souhait de la maman, oui.
C'est ça, parce que en plus de ça, elle nous parle aussi de l'arrêt de l'allaitement. Elle voudrait, je vais pas vous lire tout le mail, mais elle voudrait arrêter d'allaiter sa fille donc de 2 ans et demi, la plus grande des deux, qui tête beaucoup. Elle le voudrait, sa fille ne veut pas. Voilà, elle demande des conseils pour arrêter l'allaitement. Alors ça, on en parlera peut-être après, mais en tous les cas, c'est aussi peut-être une question de fatigue.
Non, mais en fait, la fatigue, c'est la fatigue d'avoir 4 enfants en bas âge. Après, il y a autre chose qui se joue, c'est que des fois, la maman, elle a plus envie qu'un enfant tête, tout simplement.
Alors, c'est qui décide? C'est la maman ou c'est l'enfant?
Ben, c'est les deux.
Eh ouais, mais si les deux sont pas d'accord, là, a priori, dans son mail, Maïté, elle a l'air de dire que elles sont pas d'accord avec ça.
Si elles sont pas d'accord et que la maman, elle a vraiment besoin que ça s'arrête, moi, je suggère à la maman de faire en sorte que ça s'arrête et je lui explique comment faire. On prend le temps de manière à ce que ça se fasse sans douleur pour l'enfant, que ça se passe bien pour l'enfant. Mais on ne peut pas imposer un allaitement à une femme qui n'en veut plus.
Est-ce qu'on peut proposer à Maïté de vous contacter peut-être par le biais de votre site pour aller plus loin dans cette discussion?
Oui, ouais,
on redonnera toutes vos références en fin d'émission. Alors, parlons aussi de ce qui se passe dehors maintenant, du fait d'allaiter dehors, pas encore au travail, mais voilà, à l'extérieur. En 2013, une femme est expulsée d'un magasin à Biscarrosse dans les Landes parce qu'elle allaite son bébé. L'information est relayée par les médias, évidemment, et les langues se délient. Effectivement, une partie des Français s'opposent à l'allaitement en public. C'est soi-disant impudique. Depuis, plusieurs sénatrices à travers le monde, en Argentine, en Islande, sont intervenues au Sénat avec leur bébé au sein, comme l'Australienne Larissa Waters, dont la photo a fait le tour du monde. Elles ont été jugées par certains d'exhibitionnistes. Alors, résultat, certaines femmes se cachent aujourd'hui pour allaiter. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi pour illustrer cette émission une photo de 3 femmes qui se cachent dans les toilettes. C'est aussi une photo qui a fait le tour du monde. Elle est tirée d'une campagne américaine en faveur de l'allaitement. D'ailleurs, aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'États qui ont interdit l'allaitement en public, mais les femmes sont quand même tiennent tête à tout ça puisqu'elles sont que 18% à dire se sentir gênées d'allaiter en public, alors que c'est pas mal interdit chez elles, contre 41% en France, ce qui est énorme. Donc la question de l'allaitement en public, elle semble quand même empêcher certaines mères de prolonger l'allaitement autant qu'elles le voudraient ou de le vivre en tous les cas sereinement. Qui veut réagir à ça? Patricia Coutable, vous entendez ces problèmes de gêne?
Alors, moi, je les entends par les mères, mais moi, personnellement, je ne les entends pas.
C'est-à-dire que... Vous ne les acceptez pas.
Mais ça me pose toujours problème, en fait. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Alors, effectivement, on en a déjà parlé, la désinformation, le rôle du sein, toutes ces choses-là font partie de ces difficultés aujourd'hui. Après, moi, je pense que c'est les femmes qui feront bouger l'allaitement en France et que je pense que plus on aura de mamans qui se disent qu'après tout, c'est normal l'allaitement et c'est ça la norme du mammifère, et moins on aura ce regard qui pour moi est un regard pas du tout bienveillant.
Colline Marchand, vous voulez réagir? Est-ce que c'est quelque chose qui vous pose question, vous pose problème, cette, la question de la pudeur, du regard des autres? Vous y pensez déjà? Vous êtes enceinte de 9 mois.
Alors pour moi, pas forcément, j'aurais aucune gêne à l'été en public, etc. Après, ce que je voulais dire, c'était par exemple dans ma patientèle, moi, toutes les patientes qui sont quand même étrangères, allaitent 18 mois, 2 ans, etc. Et contrairement vraiment aux françaises, où c'est plus 6 mois et après le sevrage et elles arrêtent aux alentours de 6 mois. Donc pour moi, il y a vraiment quand même cette histoire
de culture et de société. Parce que finalement, on culpabilise les femmes de ne pas allaiter, mais on les culpabilise aussi
de continuer
d'allaiter. Donc on n'est jamais la femme parfaite, la mère parfaite. Bon, ça fait longtemps qu'on l'a bien compris, mais c'est difficile de trouver sa place. Est-ce que vous avez ce sentiment que les femmes ont été dépossédées de cette question de l'allaitement et que c'est vraiment devenu un sujet de société? Et que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose?
Alors, moi, je ne sais pas si les femmes
Véronique Darmanjat, pardon.
Je ne sais pas si les femmes sont dépossédées. Par contre, déjà, employer le terme d'allaitement en public, ça me pose problème. On ne se met pas sur une scène pour allaiter devant tout le monde. Ce n'est pas ça, la réalité. La réalité, c'est une femme qui s'arrête sur un banc dans un parc pour donner le sein à son enfant.
Ou dans un magasin au calme, un coin.
Elle, c'est pas de l'exhibitionnisme. En plus, en général, on ne voit strictement rien parce qu'il y a la tête du bébé devant le sein. Donc, de toute façon, on ne voit rien. Donc, on allait pas en public, c'est juste qu'on allaite hors de chez soi.
Ceux que ça dérange, c'est peut-être ceux que, excusez-moi le terme, mais que ça excite finalement.
Peut-être.
Oui, et puis
Patricia,
on a quand même beaucoup d'images d'enfants allaités. Il suffit de rentrer dans une église où quasiment toutes les madones allaitent leurs petits.
Après, ceux que ça dérange aussi, ça peut être certaines personnes qui ne veulent pas que l'image de la femme soit réduite à l'image de la mère.
Oui, mais à ce moment-là, il faut arrêter d'être mère. On va vite, l'humanité va s'éteindre assez vite.
Ce qui serait peut-être une bonne piste, c'est que chacun puisse faire comme il l'entend.
Exactement.
Et d'où l'importance, j'imagine, quand on prévoit d'allaiter ou quand on allait, d'être peut-être dans cette bulle que certains reprochent aux femmes qui allaitent, mais elle a besoin de se dégager du jugement d'autrui, de se protéger, parce que c'est vrai que elle est sans cesse exposée aux jugements, aux avis, à cela.
Il n'y a pas que les femmes qui allaitent.
Véronique Darmanjat.
À partir du moment où on est mère, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, c'est de la faute des mères, et quand l'enfant va bien, c'est jamais grâce à elle. Donc, de toute façon, on aura toujours des avis négatifs sur ce qu'on fait, etc. C'est pas que l'allaitement, c'est juste le fait d'être mère.
Alors la question de l'allaitement dans la société, elle pose aussi celle de l'allaitement au travail ou au moment de la reprise du travail. À peine le rythme de croisière installé et le stress de l'allaitement envolé qu'on doit retourner travailler et les questions ressurgissent. Vous en avez fait un livre, Véronique Darmanjat, Allaiter et reprendre le travail aux éditions Chroniques sociales. Selon vous, le travail, c'est un véritable frein à la prolongation l'allaitement?
Ça aide pas quand même. Ça aide pas à partir du
moment où certaines femmes contournent le problème.
Il y a des femmes qui vont, en fait ça dépend vraiment du travail qu'on a. Il y a des femmes qui vont tirer leur lait sur leur lieu de travail pour que l'enfant ait du lait sur son lieu de garde. Il y a des femmes qui vont travailler avec leur enfant, notamment certaines commerçantes parfois le font. Vous avez aussi des femmes qui mettent en place un allaitement mixte, qui allaitent quand elles sont avec leur enfant et puis qui donnent des biberons de préparation pour nourrissons quand elles ne sont pas là. On a plein de façons de faire différentes et en fait on s'adapte à chaque cas en fonction de ce que la mère souhaite.
Comment vous envisagez de reprendre le travail, Colline Marchand? Vous êtes ostéopathe, vous voulez allaiter, vous êtes enceinte de 9 mois, vous avez déjà prévu la reprise?
Malheureusement.
Toujours plus proche du micro.
Oui, malheureusement, j'ai déjà pensé à la reprise. Après, je pense qu'en tant qu'ostéopathe, on peut quand même conjuguer...
Vous êtes assez indépendante.
Oui, assez indépendante et je pense que peut-être tirer mon lait pour le donner à mon enfant... dans la mesure du possible, je pense que c'est ce que je vais choisir. Après, ce que j'espère, c'est que la crèche accepte le lait maternel aussi, parce que je pense que c'est des fois aussi une problématique où ils veulent donner que du lait
Certaines crèches refusent effectivement le lait maternel, tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment le conserver. Ils ont peur d'avoir des problèmes après, si une bactérie est passée.
Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus, le lait maternel est beaucoup plus simple à conserver qu'une préparation pour nourrisson. Il y a beaucoup moins de bactéries. Et en plus, le lait maternel, c'est un organisme vivant qui s'auto-nettoie. Quand vous laissez du lait maternel fraîchement tiré, vous l'analysez juste au moment du tirage, vous le laissez 2 heures à température ambiante, vous le réanalysez, il y a moins de bactéries 2 heures après. Donc c'est un faux problème, c'est de l'ignorance en fait.
C'est de l'ignorance, c'est pas une question de mauvaise volonté ou
Non, souvent c'est de l'ignorance.
D'accord.
Il y a quand même, pardon,
oui,
il y a quand même
Patricia Coutable.
De plus en plus de crèches qui acceptent, hein, je veux dire,
c'est en train d'évoluer.
Oui, puisque comme l'OMS et même santé française, pardon, recommande quand même un allaitement de 6 mois. Donc, comme on a des reprises de travail autour de 2 mois et demi, 3 mois, voilà, quelque part, on va à peu
les
près dans le sens
sont
des recommandations
obligées,
du ministère.
Les crèches sont obligées de s'y adapter.
Quand même.
Alors, parlons du code du travail et de la loi, puisque le code du travail est en train de changer. Le code du travail prévoit, et a priori, ça ne changera pas, que pendant une année, une salariée allaitante a le droit à 1 heure par jour pour allaiter pendant ses heures de travail réparties selon accord avec employeur et rémunéré ou non selon la convention collective, mais c'est important de le travail. Et il y a les entreprises de plus de 100 salariés peuvent être mises en demeure d'installer dans leurs établissements ou à côté des locaux pour l'allaitement. Tout le monde ne le sait pas, ça n'a pas changé, ça, Véronique.
Alors, ça n'a pas changé, mais il faut savoir que c'est jamais appliqué quand même.
Mais là aussi, c'est un manque d'information pour les employeurs comme pour les salariés.
Ça peut être un manque de budget aussi. Qui donne le budget pour faire ça?
Mais ça ne coûte rien.
De faire des locaux,
Ça ne coûte pas grand-chose, surtout dans les grosses entreprises. On n'a pas besoin d'avoir une salle qui fait 20 mètres carrés. Enfin, je veux dire, on a besoin de très peu de choses. Donc, ce n'est pas une question de moyens. C'est une question de volonté. Est-ce qu'on veut le faire ou est-ce qu'on ne veut pas le faire? Et puis, il faut quand même réaliser que cette loi, elle date de 1917, pendant la Première Guerre mondiale, parce que les femmes ont dû aller à l'usine parce que les hommes étaient au front et qu'on faisait quoi des bébés.
Mais oui.
Donc ça date de cette époque-là, et à l'époque on allaitait les enfants dans les usines. Aujourd'hui, vous avez quand même des employeurs qui disent oui, ça c'est dans le code du travail, mais vous, ce que vous voulez faire, c'est tirer votre lait, ça c'est pas dans le code du travail et je vous autorise pas à le faire.
Donc, voilà, c'est de la mauvaise volonté pour le coup.
Oui, mais malheureusement, devant un tribunal, ils peuvent avoir raison.
D'accord, parce que ça n'est pas prévu par la loi.
Voilà.
On va parler de la fin de l'allaitement. On a parlé tout à l'heure au travers de votre réponse au mail de Maïté de la personne qui décide. Donc, ça reste quand même la maman qui décide. On dit qu'il faut aussi écouter son enfant. Quels sont les signes d'un bébé qui veut plus téter? Juste simplement une tête plus ou,
Alors, ça dépend. En fait, si vous avez un enfant qui est allaité complètement à la demande, il s'arrête tard. C'est-à-dire qu'il n'est plus un bébé quand il s'arrête. Il s'arrête en général entre l'âge de 2 ans et l'âge de 5 ans. Et à ce moment-là, ce qu'il fait, c'est que de lui-même, il espace les tétés. Puis à un moment donné, on se dit, tiens, au fait, il n'a pas tété depuis quand? Et puis en fait, il a arrêté de téter. Ça, c'est ce qu'on appelle le sevrage naturel chez un enfant qu'on laisse faire vraiment complètement comme il veut.
Mais à partir de quand on peut se dire que ça n'est plus normal parce qu'impudique ou j'en sais rien, pour la relation qu'un bébé peut avoir avec sa maman d'allaiter? Là, on a eu un mail, par exemple, de Nilj, je ne sais pas si je le prononce correctement, qui dit avoir allaité ses enfants 2 ans, puis l'autre 5 ans, puis l'autre 8 ans. Et évidemment, elle a eu quelques critiques et quelques regards de travers. Comment vous vous positionnez par rapport aux enfants qui sont allaités très, très, très longtemps? Est-ce que c'est le désir de l'enfant ou le désir de la mère?
D'abord, il faut savoir que c'est extrêmement rare qu'un enfant soit allaité plus de 5 ans. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est extrêmement rare. Et puis après, il faut juste regarder la situation. Si l'enfant va bien, si la mère va bien, on s'en fiche, tout va bien, quoi.
Ouais. On a également une question sur le cododo. Est-ce que vous êtes favorable au cododo pour prolonger l'allaitement et combien de temps? Vous rigolez, voilà. Patricia Kouta. Bah oui, parce que ce sont certainement des questions
sujets,
que vous entendez.
Sûr, c'est des sujets qui sont récurrents dans l'allaitement. Alors moi, je suis plutôt favorable au cododo. Plutôt que de dire aux gens non, il ne faut pas l'utiliser, il ne faut pas. Ou auquel cas, les gens peuvent se mettre en danger parce qu'ils n'ont pas assez d'informations sur ce qu'ils peuvent faire et pas faire, et quelles sont les situations critiques ou pas. bien moi je pense qu'il faudrait plutôt informer les mères qu'on ne fait pas de cododo si on fume ou qu'on a bu, on ne fait pas de cododo avec la couette, on ne fait pas de cododo avec d'oreiller, et par contre on fait un cododo avec son bébé.
D'accord. Et pour résumer. Et vous, Véronique Darmanja, vous vous positionnez de la même manière ?
Globalement oui, parce qu'en fait c'est plus une question d'organisation familiale et de règles de sécurité. À partir du moment où les règles de sécurité sont respectées, les études montrent, parce qu'en gros, ce dont on a peur, c'est la mort inattendue d'un nourrisson. Hein. Il faut être clair, c'est ça qui fait peur. Dans les études, la situation la plus sécuritaire, c'est d'avoir un bébé qui est dans la chambre de ses parents, dans son propre lit. Mais en fait, 0,2% plus bas, vous avez le bébé qui dort avec ses parents, dans des conditions de sécurité. Et cette situation-là est infiniment moins dangereuse qu'un bébé qui dort dans sa propre chambre, dans son lit. Mmh. Lui a plus de risques. Donc, il faut quand même savoir de quoi on parle et informer des gens des règles de sécurité.
Alors, je vous lis une partie du mail d'Aurélie. « Mon problème actuel concerne les nuits. J'ai choisi le lit cododo pour réellement me simplifier la vie et mon sommeil, mais il est évident que pour ma vie de couple, cela doit changer rapidement. Je pense essayer de la mettre dans sa chambre et de la prendre quand elle pleurera à 3 heures. Elle demande la nuit, le sein, toutes les 3 heures. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que la vie... Mais je ne sais pas.
Oui, parce que, en fait,
est-ce que la vie de couple peut imposer justement qu'on arrête de dormir avec son enfant, voire qu'on arrête l'allaitement ?
Il faudrait un petit peu d'imagination quand même. La vie de couple, elle n'est pas uniquement dans le lit conjugal. On peut tout à fait innover.
Ah bon ? Et trouver d'autres endroits. Vous donnez des conseils comme ça, vous.
Ouais, ouais. Et puis, il faut quand même revenir un petit peu en arrière aussi. Nos arrière-grands-parents, ils n'avaient pas 15 pièces. Hein, donc, c'était souvent des familles importantes avec 2, 3, 4, 5 enfants. Ça n'a jamais empêché les couples d'avoir effectivement de l'imagination et des relations.
On disait quand même que dormir avec ses enfants, c'était un contraceptif formidable. C'était même le meilleur, il ne faut pas se le cacher.
Rappelons-nous de nos arrière-grands-parents qui étaient super nombreux dans un deux pièces, quoi, dans des fermes en fin fond de la France, ça existait.
Ils avaient beaucoup d'enfants, oui, c'est vrai. Ils avaient beaucoup d'enfants.
Et pourtant, la proximité était là. Donc est-ce
qu'ils faisaient autrement. Ils étaient peut-être plus créatifs.
Plus créatifs, ou est-ce qu'on peut se dire qu'un enfant, quand on sait parent, avoir des mots d'amour ou des caresses, est-ce que c'est vraiment si perturbant que ça ? Moi, je ne pense pas.
Ça dépend à quel âge.
Ça dépend à quel âge, bien sûr. Bon, là, on parle d'enfants petits, a priori, quand même.
Si j'ai bien compris, c'est un petit bébé encore. Alors, après,
j'ai l'impression, oui.
Si c'est un petit bébé, il faut quand même prendre en compte le fait que moins de 6 mois, on recommande que l'enfant dorme dans la chambre de ses parents. Hein.
Mm-hmm. Ne serait-ce que, voilà.
Pour sa sécurité.
Pour sa sécurité.
Donc, après, c'est là que je dis, il faut être un petit peu créatif. On n'a pas forcément envie de faire l'amour à côté de son enfant. Je le comprends très bien. Mais on peut bouger.
Et après l'allaitement, une fois que... Tout ça, c'est terminé. Pour certaines femmes, c'est dur. Elles ont un sentiment de vide. Elles ont l'impression que le lien s'arrête. Une certaine forme de lien. Quelles sont les compensations qu'on peut mettre en place pour continuer ce lien ? Le lien, il ne s'arrête jamais.
Alors,
il se transforme.
Déjà, il faut bien comprendre qu'au moment du sevrage, on a une chute de la prolactine et de l'ocytocine qui fait qu'on peut avoir justement tout d'un coup... se dire, mais c'est bizarre, j'ai cassé quelque chose avec mon enfant, je ne le comprends plus, alors que c'est juste hormonal. Et ça, il faut bien en avoir conscience parce que ce n'est pas grave du tout et que ça va passer. Et puis, un enfant, on s'en occupe de bien.
C'est comme un deuxième baby blues à la fin de l'allaitement.
Tout à fait. Il y a une chute hormonale. Et quand on le sait, on se dit, OK, c'est juste les hormones, ce n'est pas grave, ça va passer et on le vit mieux. Et puis, son enfant, ce n'est pas parce qu'on ne l'allaite plus, qu'on ne le prend plus dans les bras.
Qu'on n'est plus parent.
qu'on ne fait plus des câlins. Et en fait, on crée un lien différent, mais on continue à avoir un lien avec son enfant.
Qu'est-ce que vous pouvez conseiller, proposer pour aborder cette fin de l'allaitement tout en douceur pour le bébé, mais aussi et peut-être surtout pour la maman ?
Ça dépend beaucoup de l'âge de l'enfant.
Ouais.
C'est extrêmement variable. Si vous avez
Pour un petit, par exemple, et puis on va prendre l'extrême inverse pour un très grand.
Si c'est un bébé qui a 2-3 mois, il est tout petit et en fait, il n'est pas encore en état de dire que ça ne lui plaît pas, qu'on arrête l'allaitement. Et souvent, les parents ont la sensation que c'est facile et ils oublient que quand on arrête d'allaiter un petit, il faut compenser beaucoup avec beaucoup de portage, l'avoir beaucoup dans les bras, beaucoup le câliner.
Le massage.
Le massage éventuellement, mais ça convient pas à tout le monde, donc c'est à voir. Mais il a besoin de contact physique, ce bébé. Et surtout pas l'oublier, parce qu'avec un tout petit, on peut franchement passer à côté parce qu'il ne le dit pas, en
Évidemment.
Fait. Quand c'est un plus grand, c'est très différent parce qu'il le dit. Quand vous sevrez un enfant qui a 2 ans et demi, je repense à la maman de tout à l'heure, à 2 ans et demi, elle va dire qu'elle n'est pas d'accord. Et c'est très bien qu'elle puisse le dire. Et c'est très bien qu'on puisse l'entendre et lui dire, bah oui, je comprends que ce soit difficile pour toi, mais regarde, on va continuer à faire des câlins, on va continuer à s'occuper de toi aussi bien. Et quand l'enfant peut exprimer que c'est difficile pour lui et qu'il est entendu et que les parents restent zen, en fait, on crée une nouvelle alchimie, on crée des nouvelles façons de faire et ça se passe bien dans la majorité des cas.
Vous voulez réagir, Patricia Coutable ?
Non, j'étais d'accord avec ce que disait Véronique par rapport à ça.
Il y a aussi dans l'idée de cette prolongation de l'allaitement, mais peut-être plus d'une vision, d'une vision philosophique de, de l'allaitement, la possibilité des lactariums. Alors, il s'adresse aux mamans qui ont beaucoup de lait et qui veulent en donner pour d'autres enfants, mais il s'adresse aussi aux mamans parfois qui ont envie de se dire que leur lait peut continuer à être donné à d'autres. Est-ce que vous avez des informations à nous donner sur les lactariums ou une adresse pour les mamans que ça intéresserait ?
Alors, pour les mamans qui souhaitent...
Véronique Darmanjac.
Qui souhaitent donner leur lait, il faut contacter l'association des lactariums de France. Selon l'endroit où vous êtes en France, vous n'allez pas dépendre du même lactarium, tout simplement. Et le site internet, c'est association-des-lactariums-de-france.fr. Tout bêtement.
Alors, il faut savoir que le lait récolté sert beaucoup aux prématurés qui peuvent en aucun cas prendre du lait infantile reconstitué. Est-ce que dans ces associations, ils envoient aussi le lait dans d'autres pays, comme en Afrique du Sud, pauvres
en France,
peuvent
il
n'y
en a pas assez déjà.
Il n'y en a pas assez.
En France, le problème, c'est qu'on manque de lait pour les bébés préma.
Déjà.
Donc, il y a souvent des ruptures de stock. Donc, non, en France, on n'a déjà pas assez, en fait.
On arrive à la fin de cette émission, chers invités. André Gide a écrit « À la montée de lait commence l'amour ». Alors André Gide, il est mort en 1951, avant que le lait infantile ne soit grandement commercialisé et à la mode. Et on en est revenu depuis de cette idée, puisque on ne peut quand même pas dire, et en conclusion de cette émission, que si on n'allaite pas son enfant, ça veut dire qu'on ne l'aime pas. On est bien d'accord. Mais cette idée peut faire pleurer pas mal de mamans.
Qu'est-ce qui peut faire pleurer les mamans ?
L'idée que si on n'allaite pas son enfant, ça veut dire qu'on ne l'aime pas.
Ah mais c'est complètement faux. Et d'ailleurs, tout le monde le sait très bien. Quand on n'allaite pas son enfant, on l'aime. Il n'y a pas de problème.
Est-ce qu'on vous parle souvent de l'amour dans la question de la nourriture ? Parce que finalement, moi, ce que je vois dans toutes ces inquiétudes-là et dans tous les témoignages ou les mails qu'on nous a envoyés, c'est vraiment toujours une question d'amour qui se cache derrière la question de donner à manger à l'enfant. Est-ce qu'on vous parle d'amour dans vos consultations ?
Oui, moi, j'ai eu un témoignage
Colline
d'une
Marchand, ostéopathe.
J'ai une patiente qui... où l'allaitement s'est mal déroulé. Et c'est vrai qu'elle était très, très pressée de nourrir son enfant, de diversifier son enfant. Et donc, c'est vrai qu'elle a dû le faire vers les 4 mois et demi. Mais c'était vraiment cette envie de nourrir ou de donner à manger.
Et finalement, il y a aussi beaucoup de façons de donner de l'amour et il y a beaucoup de façons de nourrir son enfant. Et Dieu merci, être parent et être maman ne se résume pas uniquement à allaiter. Ça me paraissait important de le dire parce que vraiment, j'ai eu beaucoup de témoignages d'amour dans cette émission. Je suis vraiment désolée de pas avoir pu tout lire. Ça a été vraiment impressionnant le nombre de mails que j'ai reçus. Et voilà, et derrière cette question de l'allaitement, je pense que si elle fait tant réagir, c'est parce que ça touche profondément à la question de l'amour qu'on peut porter à notre enfant et puis à l'idée de la mère parfaite qu'on a envie d'être. Ça, on en a déjà parlé. Alors, je préfère à la citation d'André Gide, le proverbe australien qui dit « Seul l'amour remplace le lait ». Ça vous plaît ?
Oui.
C'est comme ça qu'on terminera cette émission. Je rappelle vos références, chers invités. Véronique Darmanjac, consultante en lactation. Vous avez écrit 2 livres, L'allaitement malin aux éditions Le Duc et Allaiter, reprendre le travail aux éditions Chroniques Sociales. Vous êtes aussi la créatrice, la fondatrice du centre allaitement Véronique Armanjac qui propose un accompagnement complet de l'allaitement, aussi bien que de la formation pour les professionnels de santé, des conférences, etc. Le site, c'est allaiter.com. À Paris.fr. On s'est dit hors antenne qu'on allait dire très rapidement quelques mots sur un film documentaire auquel vous avez participé et qui peut être une bonne piste si nos auditeurs et auditrices veulent prolonger leur savoir sur cette thématique de l'allaitement. C'est un film qui s'appelle La Voie lactée de John Fitzgerald. Il est sorti en 2014.
Alors, Véronique c'est un Darmanjah. Film américain, donc moi, je n'ai pas participé au film. Par contre, j'ai participé dans la version française. Ils ont fait un énorme bonus, si vous voulez, un très gros. Ça fait comme un deuxième film avec des conseils. Et c'est dans cette partie-là que
donc j'ai participé. Donc, vous avez participé au bonus du film. Donc, un très joli film, La Voie lactée de John Fitzgerald, sorti en 2014. Vous pouvez le trouver dans tous les points de vente en France. Colline Marchand, vous êtes ostéopathe spécialisée dans le domaine de la gynécologie et vous prenez principalement en charge des femmes enceintes, des nourrissons et des enfants. On peut vous contacter par l'intermédiaire du centre de Véronique Darmanjah, puisque vous y travaillez, mais aussi de façon indépendante, puisque vous avez un cabinet dans le 18e à Paris. De quelle façon vous avez un Facebook, je crois,
oui,
aussi.
J'ai une page Facebook et des coordonnées Doctolib depuis peu.
Ah, mais super, ça marche très très bien, Doctolib. On tape le nom du thérapeute et on peut prendre rendez-vous directement sur Internet. Et enfin, Patricia Coutable, anciennement auxiliaire de puériculture. Vous êtes également consultante en lactation, affiliée au centre de Véronique Darmanjah. On peut vous trouver par le site Allaiter à Paris. Une autre façon aussi, parce que vous déplacez à domicile, vous faites de la formation.
Aussi une page qui s'appelle Accueillir, Allaiter, Accompagner. Une page Facebook, tout simplement.
Merci à toutes les trois pour cette participation à cette jolie émission. J'espère que vous avez, que vous en garderez un bon souvenir. Je vous propose, comme pour la fin de chaque épisode de Bien-être Ensemble, de nous quitter en musique, cette fois-ci avec le titre proposé par Patricia Coutable, un titre signé Linda Lemay, qui nous raconte une histoire, en fait, comme bien souvent Linda Lemay. Qu'est-ce qui vous a plu dans Ma Chouette, Patricia ?
Beaucoup d'humour, beaucoup d'amour et puis une histoire de vie, je pense, tout simplement. Et de femmes.
Merci beaucoup à toutes les trois. Ma Chouette, tirée de l'album live de Linda Lemay, c'est tout de suite dans le magazine Bien-être Ensemble. À dans 2 semaines pour un prochain épisode. D'ici là, on attend vos commentaires, vos likes, vos partages. Ciao les amis et vive le lait. Enfin, l'amour.
Il y avait toute la famille dans la cafétéria. Ça prenait des paris, certains disaient, ce sera sans aucun doute une fille, parce que je te portais pas, même si l'échographie me prédisait un gars. Et puis il y avait ton père, exalté comme une femme, entre la crise de nerfs et puis la crise de larmes, impatient comme un cheval derrière la barrière qui piétine la terre avant la course finale. Puis il y avait l'infirmière tranquille comme un poisson diplômé en matière de respiration qui me flattait la jaquette pendant les contractions et qui m'appelait ma chouette comme si c'était moi le poupon. Et bien sûr, il y avait moi la chouette en question, tremblante comme un soldat qui va combattre au front, comme une brebis frileuse qui veut pas qu'on la tonde, comme une poule couveuse qui sait pas comment pondre. Finalement, il y avait toi qui voulais sortir, tant pis si c'était toi, tant pis si ça déchire, pressé comme la police en pleine chasse à l'homme, toi la star en coulisses, j'allais te voir en personne. À l'heure où, pour être franche, moi j'en avais plein le col. Il y avait une petite balle blanche qui prenait son envol. Sur le grand terrain de golf où se promenait mon docteur, qui entendait pas sonner le téléavertisseur. Il y avait toute la famille dans la cafétéria. Ça mangeait des croustilles, ça buvait du cola. Et puis il y avait ton père que je sentais faiblir, qui savait pas quoi faire et encore moins quoi dire. Et l'infirmière inquiète qui regardait filer l'heure, qui me répétait ma chouette, on trouve pas ton docteur. Et il y avait moi la chouette qui gueulait dans la chambre, débarque de ma jaquette ou bien je te casse les jambes. Puis il y avait le médecin de garde qui est venu à la rescousse de la pauvre garde malade qui osait même plus dire pousse. C'est à ce moment précis que tu t'es sorti la tête. Ton père s'est évanoui et l'infirmière m'a dit: un dernier effort, ma chouette. Quelques secondes plus tard, t'étais contre mon sein, avec ton petit regard bouffi qui cherchait le mien. Ton papa, tout papa, pleurait comme un gamin en mettant son gros doigt en dessous de ta petite main. Il a rejoint la famille qui brûlait de savoir. Il a dit: c'est une fille, a sorti les cigares. Elle a dit: cette fois c'était là, les cheveux noirs, une belle fille grassouillette de 8 livres et quart. Aujourd'hui, ma fillette, c'est ton anniversaire. T'en as plein la bavette de ton beau dessert. En fait, depuis ta naissance, il n'y a qu'une chose qui m'inquiète, c'est que parfois j'ai tendance à t'appeler ma chouette.